I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant de commencer cette émission de Studio 404, planté au milieu d'un petit restaurant italien, un petit message de notre sponsor dans la douce voix créative de Sylvain Palais.
Et oui, rappelez-vous, on a parlé de beaucoup de choses dans l'émission spéciale mobilité il y a 2 mois. Et on a surtout parlé de nomadisme. Que demain nous serons tous des gitans 2.0. Et bien figurez-vous que la 404 Consulting Agency a encore frappé, puisque notre sponsor du mois vient valider cette vision. La Maïf propose une extension bien nomade, donc des biens mais qui sont nomades, pour assurer vos objets chez vous mais aussi en dehors de chez vous. C'est-à-dire que lorsque vous emportez votre PC en LAN et qu'un gamer excité renverse son Monster et ses Doritos dessus, et bien pas de panique, vous êtes assuré.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans Studio 404. Nous sommes dans un restaurant italien. De, on va s'applaudir mais très doucement, attention. Je suis très heureux de vous retrouver, chère équipe. Je suis très heureux de vous retrouver, chers auditeurs. C'est le mois de juin. Il fait chaud. Les écouteurs vous collent déjà un peu aux oreilles. Ça fait des auréoles hein, autour des oreilles. Mais vous êtes heureux de nous écouter. Et nous sommes heureux d'enregistrer une belle émission pour vous. On a des belles surprises, des beaux sujets. Et bien sûr, la même belle équipe. Ghislain à la réalisation. Sam à l'organisation. Un certain N à la présence discrète
qui est là, on peut
pas en dire plus. Et évidemment, nos chers chroniqueurs, comment ça va les amis? Comment ça va Mélissa?
Ça va très bien.
Oh, ça va très bien de la jeune entrepreneuse qui dort pas. Elle fait pas ses nuits.
Aujourd'hui, j'ai acheté de la vitamine C, ce que je faisais pendant les concours quand j'en pouvais plus.
Énergie, Mélissa, énergie.
Énergie. J'ai envie de faire une power nap.
Une jeune entrepreneuse digitale. Tu fais des podcasts natifs, brand centric. Énergie.
Bientôt le prochain podcast. Le 6 juillet, les amis.
C'est vrai, le 6 juillet. Ouais, c'est beau. J'ai vu que ma sœur allait y participer.
Non, ça, c'est celui qui est sorti le 12 juin.
Oh là, ça va beaucoup.
Ça s'appelle Regard. C'est super aussi.
Oh là là. Est-ce que c'est un podcast sur la Japan Expo?
Entre, regarde.
Pourquoi? Est-ce
que c'est le 6 juillet? Fais le tour du propriétaire, c'est aussi le
maman,
prochain.
Maman, ensuite, tu auras est près de toi.
Tout ça pour ça.
Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est comme les mangas avec quand tu les mets tous alignés, ça fait une fresque. Ouais. Et les podcasts de Louis, ça va faire pareil.
Peut-être qu'il y a une signification secrète des podcasts de qualité. Non, je déconne, il n'y a rien.
Un titre de Marc Lévy au mieux.
Oui, ce serait beau. Sylvain, comment ça va?
Ça va très très bien. Et en plus, j'ai des cadeaux pour vous.
Wow, des cadeaux pour nous, les auditeurs?
Et
pour
oui,
nous, l'équipe?
Non, pour nous, l'équipe. On a un auditeur qui nous a offert des cadeaux.
C'est vrai? Qui est cet auditeur?
Il s'appelle Emilan DC sur Twitter. Je lui fais un gros bisou.
D'accord.
Et il a lancé un petit business que vous avez peut-être déjà
oui,
vu passer.
Il est pire.
Il fait des pins internet.
Il nous a offert des pins.
Et du coup, il nous a offert des pins.
Alors, le niveau d'hipsterisation digital est au maximum. Hein.
J'ai des pins Cogip.
Oh, bah ça, je prends.
Donc, Daz va en prendre un.
Oh, mais oui, merci. Ah,
testez un peu. Et j'ai aussi des pins. Attention.
Voilà. Il y a du Cogip. Hein.
J'ai des pins Supreme.
Oh, bah oui, des Supreme.
Oh, le Supreme. Il y a une main qui s'est levée.
Donne-moi un Supreme.
J'en ai que deux des Supreme.
Ah, j'en veux un, moi.
C'est en édition limitée.
Il va falloir vous battre. Et après, c'est que des Cogip.
Ok,
Cogip, c'est bien,
moi je voulais supprimer.
Si
le Cogip est très
bien.
Ah, le Cogip est parfait. Un excellent produit. Je me demande s'il a les droits.
Mais Fibre, pourquoi tu connais la blague ou pas?
Bah, je suis culture Twitter, moi.
Oui, non, mais tu connais la vraie blague.
Oui, oui, Supreme.
Merde, je la connais, fais chier.
Bah, si tu veux, allez, tiens.
Non, regarde, c'est ton anniversaire, Fibre. Car c'est l'anniversaire de Fibre Tigre. On peut
absolument, bravo, bon anniversaire. Bravo. On peut chanter peut-être?
Non, ne chantez pas, s'il vous plaît, on est au restaurant en plus.
Justement, il va peut-être apporter, on sait pas, un gâteau.
On chuchote, attention, c'est parti.
Joyeux anniversaire.
40 ans.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Fiber Tiger. Joyeux anniversaire.
Merci beaucoup.
Bravo.
Merci.
6 bougies sur 6, évidemment, merci. Pour fêter ce petit gâteau.
Ah oui, fantastique.
Bon, c'est la déprime ?
Total. C'est affreux. Non, mais vous verrez, le jour où vous y serez, je vous dirai, ok.
Mais pourquoi ? Il s'est passé quelque chose dans ton corps, dans ta tête ?
J'étais méga en forme et je me suis dit, ça va bien se passer. Et j'ai fait une petite opération virale. J'ai dit à tout le monde qui me souhaitait bon anniversaire, j'ai dit, ce serait chouette que vous créiez un faux compte Twitter pour me follower, ça me ferait vraiment plaisir.
Oh, le cadeau.
T'as eu des followers du coup ou pas ?
Ouais, j'en ai eu 40.
C'est pas mal.
Pile. Voilà. Mais attends, je plaisante, mais j'en ai un peu plus.
Il n'y a pas une OP 40K followers pour Fibre Tigre ?
Ouais, c'est ça, ils ont lancé ça. Et en plus, c'est amusant parce qu'après, c'est devenu une guerre interne parce qu'il y a eu des comptes Kalitos 1, Kalitos 2, Kalitos 3.
Ah oui,
et donc, il y a eu Kaliteros 1, Kaliteros 2, Kaliteros 3 qui ont commencé à me follower, tu vois.
C'est pour ça qu'il y a eu Kaliteros officiel.
Voilà, et donc, tu vois, ils ont commencé à se battre entre eux, c'est devenu une autre guerre, tu vois.
Ah, voilà.
C'est plus ta guerre.
C'est fou parce que chaque mois, on voit le conflit s'envenimer et tel Louis XVI, chaque mois, nous écrivons dans l'agenda aujourd'hui. Rien. Alors qu'on sait que là, ça commence à flamber autour de nous. Hein, mais... Ah là, c'est fou ça. Comment ça va toi, Daz ?
Eh ben, ça va super bien. Ça va super bien. Oui. Je tiens à dire qu'on est à peine au 20 juin.
Oui.
Et on enregistre une émission, ce qui, selon tous nos standards, est un événement en soi.
C'est presque une émission du mois de mai, j'ai l'impression.
Oui, c'est incroyable. Je la compte, moi, comme une émission de mai.
Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, parce qu'elle sera peut-être inaudible. Ah. Il faut avoir ça en tête.
Par rapport à la bande son restaurant qu'on a mis derrière.
Okay. Attendez,
je pense que les auditeurs devraient nous signaler à quel moment ils se sont arrêtés.
Non, mais attendez.
Non, mais en même temps, ça va
déjà,
se calmer.
Alors,
ça va
déjà,
se calmer.
On leur promet aux auditeurs qu'on ne mangera pas pendant l'émission, puisqu'on a mangé avant.
Exactement.
Oui. Donc, ça, on va déjà, juste faire des petits rototos pendant l'émission, mais voilà. Tout le reste, en tout
pas
cas.
De mastication.
Ou un
pas
petit
de mastication.
Pas de mastication, éventuellement.
Donc, voilà. Donc, ça va aller très bien. Ce soir, nous avons 4 belles chroniques, des belles FAQ, donc un beau petit programme comme on les aime. Est-ce qu'on se met en route, les amis ?
Eh bien,
on y va. Petit recours ou pas ?
Comment ?
Reco ou pas ?
Ah, c'est vrai, oh, c'est vrai, une petite reco, Fibre. À part, mettons tu lis des trucs de daron maintenant.
J'aurais pu.
Il parle comme mec qui a 40 ans.
Juste aimer avoir une ceinture à outils ou faire des petites blagues. Mais j'ai une vraie reco. C'est pour ça que je suis content qu'on en parle. Une reco de concurrence. Donc, oui. France Culture sort un podcast qui s'appelle Du Grain à Moudre.
Oui.
Et ils ont fait un podcast Du Grain à Moudre sur l'achat de GitHub par Microsoft. Avec autour de la table des Linuxiens et un mec de Microsoft. Et d'accord. C'était très courtois, mais on sentait que c'était un peu ambiance. Tu vois ta gueule après l'émission, tu vois. Donc c'était assez fun. Et en plus, on comprenait un petit peu de quoi ça parle GitHub. On n'en a pas parlé, nous. Et voilà, c'est le Studio 404 en cravate ce qu'on aurait pu faire.
D'accord. GitHub, c'est un petit repository.
Bien sûr.
Oui.
France.
Mais je vous encule, monsieur Microsoft.
J'encule, monsieur Gates.
Je vous émule. Mon petit Sylvain, est-ce que tu as une reco ?
Eh bien, c'est Internet Pin Company. Oui. Je l'ai fait dans la foulée. Voilà, c'est la petite entreprise d'Emiland qui fabrique des pins.
Alors attention, ce n'est pas une reco, c'est un sponsoring.
Attends, c'est un sponsoring ?
Bah, pas vraiment, c'est un cadeau quoi.
C'est une OPSP ?
Non, ah, parce
putain,
que
je sais plus.
En vérité,
c'est trop.
Quand il a sorti ce truc, j'en ai parlé déjà moi naturellement, donc je considère pas que c'est un sponsoring.
Ah là là. Voilà. Le fameux, je ne parlais jamais de pin sur mon blog, mais quand j'ai vu la marque, non, j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent pour ma ligne éditoriale.
Sur mon blog de voiture.
On a tous lu Babillage, on la connaît celle-là. Hein. Tu vas pas nous la faire en 2018. Mélissa, comment ça va du coup, côté petite reco ? Est-ce qu'il y a une petite reco à part écouter, regard, entre, écoute et retourne-toi ?
Écoutez.
Tu sens qu'elle a plus de vie. Elle a plus de vie depuis qu'elle est
jeune. La série que je regarde, c'est La Servante Écarlate, qui n'est pas le truc le plus drôle de la Terre, mais c'est toujours bien, donc je le recommande toujours.
Mélissa, est-ce qu'on a déjà dit que tu avais gagné ton pari avec le Ulule de Louis ?
Bah, en direct même.
Parce que, ah oui,
lors de la dernière émission, nous avons passé la barre des 25 000 euros.
Et donc là, vous avez fini à combien de pourcentage de...
À 105%.
C'est bien,
c'est confortable. Merci à la communauté.
Ce qui fait penser que j'ai oublié de donner à Will, parce que j'étais là. Oui, j'ai donné au dernier, à la dernière fois.
Moi, je l'ai fait, t'inquiète, c'est la famille.
Je te paierai un beau cocktail, ce sera.
Ah, magnifique. C'est tant bien, je voulais prendre un spritz.
Ah, bah, très bien. Alors, on va commencer tout de suite l'émission et on va commencer par Fibre, pas parce que c'est son anniversaire, mais parce que Fibre va commencer tout, puisqu'il va parler des Early Adopters.
Sujet numéro 1.
Ils étaient là trop tôt, on les traite de retards. Rendons hommage aux Early Adopters.
Quel bel accent, Angie. Angie qu'on embrasse, bien sûr, au passage. La meilleure voix du pif.
Et la meilleure chronique.
Et la meilleure maman.
Ah, c'est la meilleure chronique. Non, mais le mec,
c'est la meilleure chronique.
Non, mais vous savez, je m'étais engagé. Je sais pas si vous souvenez-vous,
c'est vrai.
Discord.
C'est vrai.
Je l'ai lu hier soir, pour l'instant, j'attends de voir.
Alors, on laissera les auditeurs en juger pour voir si Fibre a fait la meilleure chronique.
Je dis ça, c'est juste pour me coacher moi-même. Avant de commencer la chronique proprement dite, j'ai une question à vous poser Tiens, à l'âme aussi, tiens, à vous quatre, donc. Vous savez qu'il y a cette techno d'Amazon Key qui permet à un livreur de rentrer chez vous et de déposer un colis. Et si on vous l'offre gratuitement demain, est-ce que vous l'installez chez vous? C'est la question que je vous pose à vous quatre.
Gratuitement?
Ouais.
Donc, oui.
Donc, on te livre à Maison Alphard des colis d'Amazon, c'est ça?
J'ai envie qu'on dise tout de suite parce que ça va baiser la chronique de fibre et du coup, il fera pas la chronique de l'émission.
Non, mais déjà Daz, il me baise là. Mais, alors, mais je sais très bien qu'il le mettra jamais.
Si c'est gratuit, fibre. En plus, Amazon, si c'est gratuit, alors là, t'es doublement baisé. Mais...
moi, non, j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'ai pas l'impression que c'est un besoin.
Moi, non.
Un livreur qui rentre chez toi trop. À n'importe quel moment, tu vois.
Ouais, non, mais arrête de remettre des couches, toi.
Bien sûr, non, mais c'est ça.
Mais non, clairement, pour l'instant.
Un livreur Amazon qui rentre chez Daz, d'accord.
Mais moi, franchement, ça m'aiderait.
Un entre-deux, la sorte de boîte aux lettres commune à l'immeuble, j'aurais pu, mais chez moi, non.
Donc voilà, il y a trois noms de bonne aloi et un oui de mauvaise foi. En gros, globalement, non, mais certaines personnes vont le faire. Elles vont le faire alors qu'effectivement, c'est un peu en dépit du bon sens. Un étranger, un livreur déjà que vous connaissez pas, va rentrer chez vous.
Moi, je commence à le connaître.
C'est tendu.
C'est vrai, tu connais le livreur Amazon?
Oui, bon. Il s'appelle Gabor.
Alors, moi aussi, je connais bien mon livreur.
Bref, tout le monde connaît son livreur, c'est parfait. Mais il y a des personnes qui vont pas réfléchir. No brain, ils vont dire oui, tu vois. Donc, c'est des gens qui se prétendent technophiles ou ils sont très gadgets. En vrai, ils se jettent sur les nouveautés technologiques comme des pies au cerveau malade qui se jettent sur tout ce qui est brillant. Un nouveau device VR, un truc bizarroïde genre Leap Motion, il respire comme des petits gros asthmatiques et Queen tant qu'ils l'ont pas entre les mains. C'est moche, aucun problème, c'est nouveau, ça suffit, c'est le seul critère, il faut que ce soit nouveau. Ce sont les early adopteurs du malaise. Donc je les appellerai les EAM, d'accord.
Encore une fois, on parle pas des early adopteurs, on parle des early adopteurs du malaise.
Alors, ceux qui avaient des téléphones portables format briques de maçon, des lecteurs MP3 de 5 mégaoctets qui portaient autour du cou, souvenez-vous. Des oreillettes Bluetooth phalliques pendues à l'oreille. Des, alors, mea culpa, gyropodes chinois rouge vif, qui surnommaient affectueusement mea culpa Crimson Typhoon. Donc, tous ces gens-là, au fil des années, eh ben, les graines de 404 que nous sommes aujourd'hui, mais les auditeurs se reconnaîtront, ben, les graines de 404 se sont moquées de ces soldats qui ont sacrifié leur dignité pour leur passion, mais aussi pour une cause plus grande, la popularisation d'une techno. Entre le moment où une techno est commercialisée et que sa version cool comme un produit Apple sort, ben, il se passe un moment de flottement, celui où les EAM testent, valident, rassurent, suivent le produit. Moi, j'ai été un EAM du Gyropod, celui qui a fait bien rire Daz, mais qui lui a fait dire « C'est pas mal, quand sortiront la version monocycle, eh ben, peut-être que je l'achèterai. »
Monocycle. Solo, oui.
Et on attend que tu l'achètes, d'ailleurs.
J'attends aussi. Hein.
Sans tous ces consultants informatiques ringards et leur oreillette Bluetooth de 6 kilos, aurions-nous eu le Bluetooth intégré dans les voitures? Le protocole Bluetooth tout court? Il y a aussi les EAM visionnaires. Par exemple, les EAM qui sont jetés sur les AirPods, c'était cringe à la base, non? Ouais. Et ben aujourd'hui, la techno n'a pas du tout changé, mais on se dit, c'est pas mal. Ils ont évangélisé.
C'est vrai.
Le drame des EAM, c'est qu'ils seront jamais cool. Après s'être tapé la honte publique, parce que rappelez-vous qu'au tout début, les portables normaux, hein, ben c'était cringe de téléphoner dans la rue. Les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est ces gens qui téléphonent dans la rue? Et ben, après s'être tapé la honte publique, pas de médaille pour eux. Non, après cette étape, ils seront encore plus cringe, car ils seront déjà sur la prochaine techno, même si elle doit se planter. Comme les Google Glass, dont on a surnommé les porteurs les Google Glass Holes. Sans eux, pas de progrès. Donc comme à 404, notre sport favori, c'est de juger les gens, nous sommes les méchants de l'histoire. En moins d'un an, la majorité des chroniqueurs s'est moqué, un, des assistants vocaux, et ils se portent très bien, deux, de la pratique de l'écoute accélérée, utilisée par la plupart des auditeurs. Daz a réussi à dire dans une Tesla à 100 000 boules qui roulait toute seule sans un bruit que bon franchement je suis pas super impressionné hein.
J'ai même pas dit ça,
j'avoue.
Ouais, mais, tu vois, Daz dit, mais en fait c'est vrai,
je dis que c'est une voiture de branleur. Bah, c'est différent.
Nous sommes les méchants de l'histoire. Alors moi je me suis dit, et si ces technos, si des technos étaient mortes et enterrées parce que les EM ont eu affaire à trop forte partie à des méchants chroniqueurs 404 qui ont insisté alors qu'elles auraient pu changer nos vies. Ben moi, je vous propose d'aller dans un 2018 alternatif peuplé de EAM qui adore toutes les nouveautés. Alors,
2018 quoi.
On se téléporte. Daz, early adopteur heureux, rentre de la Cogip en monorail SNCF. À son arrivée, il est accueilli par son robot chien Aibo de Sony. Il lui apporte un disque à mettre dans son CD Mini, un fusion du CDI de Philips et du mini-disque de Sony. Bref, c'était un concert multi-angle de ses artistes préférés.
Ah, le concert multi-angle. Merde.
Pendant que la musique résonne à travers son Nabastag, il s'approche de son frigo intelligent qui lui décrit son contenu sans être ouvert. Mais il ne pense pas à son frigo. Il se dit « Et si je me faisais une petite partie sur ma Ouya ?» Dans cette réalité, Daz aurait pu avoir un Virtual Boy, une Nokia N-Gage, un Newton d'Apple, mais ces devices sortis, puis morts, faute de M, ont ressorti plus tard, à un moment plus propice pour évoluer dans les indispensables que nous connaissons. Oculus, smartphone, tablette. Que de temps perdu ! Mais que de temps perdu ! Où en serions-nous aujourd'hui si nous avions accueilli comme il se doit, sans préjugés, sans juger ? Revenons dans notre triste monde où, rappelons-nous, nous sommes les méchants de l'histoire. Je vous repose la question. Amazon Key, vous le mettriez chez vous ?
Ah, je dis toujours non mais j'applaudis.
Bravo, bravo.
Merci.
Mais quelle est cette chronique ?
C'est la meilleure chronique
c'est la
de
meilleure.
L'émission.
C'est la meilleure.
Criminelle au possible.
C'est la meilleure chronique de l'émission, auto-annoncée, auto-prophétisée par Fibre le mois dernier.
Je dois dire,
Fibre Tigre, que je me reconnais à 100% dans le AM.
Ah, dans le
toi,
même.
Toi, moi, tu aimes, non, t'as pas des vieux trucs. T'as quand
alors,
même de
attends,
la
alors, alors, qui j'ai une question. Donnez-vous un pourcentage. Tu sais, un peu comme en parlant d'Early Adopters, les pauvres gens qui se font touiller parce que sur leur story Instagram, c'est le fameux smiley jauge que personne ne comprend. Quelle est votre jauge entre je suis un Early Adopter du malaise et je suis un quelqu'un qui aime juger.
Exemple moi, à l'appui. Hein.
Non, mais moi, donc, je suis.
Vous êtes quoi 50-50, 30-70, 40%.
Moi, je suis à 90% un EM.
Quoi
ouais, moi aussi.
Moi, le Palm Pilot, je l'avais. Le mini disque, je l'avais. Enfin, tous les trucs qu'on pas marché,
c'est pas trop cringe.
Bah, l'oreille de Bluetooth, moi je l'ai eu, celle de Sony qui était grande comme ça, là je l'ai eu.
Ah, okay.
Mais le Nabastag,
le Nabastag, non, le Nabastag, je l'ai pas eu parce que c'était même pas de l'early adopting, c'était vraiment pour le coup un objet marketing.
Ah non, mais attends, c'était le premier.
Oui, mais il y avait pas de finalité. Il y avait pas de finalité. En fait, le AM, normalement, enfin dans ma conception du truc, c'est quand même quelque chose qui est supposé changer un petit peu ton rapport aux choses.
T'as une smartwatch Android de luxe, hein, donc ça c'est très ouais. Le AM hein, quand même.
Mais en plus, j'ai attendu qu'il y ait des soldes. Donc non, mais en fait, il s'est complètement planté de cible. Moi, je suis dans l'histoire, je suis pas Zach Morris. Moi, je suis Screech. Hein.
Non, c'est Zach Morris qui a le gros téléphone.
Oui, mais tu vois, c'est Zach Morris, le cool kid.
Ouais.
Et moi, je suis pas du tout un cool kid. Moi, dans Parker Lewis, je suis le mec avec la gabardine qu'on enferme dans le casier.
T'as eu des lunettes aux clés MP3 ou pas ?
Non, ça, faut pas déconner.
Ça, c'est mon Pentaro, ça.
Ouais, voilà, exactement. Ouais.
Sylvain, quelle est ta jauge
moi, je suis
Early Adopter du malaise.
Je suis à 99% parce que je peux pas m'empêcher d'être reculé, mais j'ai un Leapmotion.
Qu'est-ce qu'il y
a ? J'ai un Leapmotion.
C'est vrai qu'il a un Leapmotion.
J'ai eu le MP3 autour du cou. J'ai fait une chronique absolument dithyrambique sur la VR, comme quoi ce serait le futur du divertissement. Et j'ai gagné, dans mes jeunes années, une oreillette Bluetooth sur un concours chauffeur de buzz. Qui peut venir me chercher là-dessus ? Ouais, mais... Qui peut s'asseoir à cette table et dire je suis plus EM que toi ?
C'est chaud.
Chauffeur de buzz.
Chauffeur de buzz, eh oui. Eh
non,
oui.
Mais t'as juste fait ça pour dire dans 10 ans.
Je pourrais dire.
En fait, les mecs, ils savaient qu'un jour une chronique viendrait les chercher et qu'ils diront non, j'ai cette caution.
J'ai une vision.
Vous jugez jamais.
Je trouve que c'est un peu j'ai un ami noir, tu vois.
Oui.
Non, non, mais en fait.
Non, je suis un peu d'accord avec vous là-dessus.
Attends, demande à Mélissa quel est son pourcentage, après je vais lui démonter sa
chronique. Quel est ton pourcentage après, mais c'est entre l'early adopting et le late judging.
Je pense que je suis à 10% quoi, de early adopteur du malaise. Parce que vraiment, j'adapte.
C'est ce qu'on me donnait aussi.
J'adapte rien du tout. Sauf des trucs qui marchent déjà hyper bien.
Oui, du coup, Mélissa, est-ce que tu fais partie de la période, comme dit Fibre, au moment où le produit est mûr et cool, c'est un produit Apple globalement qui. T'as pas acheté de lecteur MP3 Rio, mais t'as attendu l'iPod quoi.
Cela dit, j'ai eu des mini disques, hein, mais grâce à mon frère, j'avoue. Ouais,
les mini disques.
J'ai eu des mini disques.
C'est vrai.
Mais attends, moi sur le mini disque, je me revois parfaitement faire la leçon à un gars qui s'est acheté un stick MP3 de Sony en lui disant mais mec, t'as 256 mégas, tu vas mettre quoi 10 chansons, mais t'es mort dans le film. Regarde, et j'ai sorti ma banane. J'avais une banane à l'époque qui revient d'ailleurs. Et j'ai sorti tous mes mini disques en lui disant là. J'ai 8 heures de musique.
Et tu sais ce que je peux faire avec mon midi ? Je peux enregistrer des concerts.
Ouais.
Et ouais.
Et je peux écrire tous les noms des morceaux avec ma télécommande Up and Down.
Et j'ai un câble fibre optique pour la transférer sur ma chaîne.
Pendant mes années d'études, j'avais un Palm Pilot, le premier, le Palm professionnel. Et je faisais croire à tous mes profs que c'était juste une calculatrice. Alors que j'avais tous les cours dedans.
Est-ce que le midi, si tu pouvais le secouer, ça bougeait pas la lecture ?
Ça bougeait pas.
Parce que c'était un peu l'argument du MP3
non, ça bougeait pas.
Toi, mais
le mini disque, ouais, quand même un peu.
Le mini disque.
Si, il y avait des petits bruits.
Le mini disque. Non, pour que tu perdes la lecture en le secouant, fallait vraiment t'énerver dessus.
Non, mais d'ailleurs, c'est ton pote qui était allé docteur du malaise parce qu'il achetait des sticks MP3 Sony à l'époque, c'était avec le format.
C'est
le format
en bâton.
Ouais, mais c'était le format fermé de Sony. Tu sais, il voulait pas avoir.
Ah, on attraque.
Ah,
quelle horreur.
La track, ça, c'est EAM sur 20. Ça.
Ah oui, ça complètement.
Ça, c'est relié.
Mais j'ai eu un Vaio Pocket qu'on m'avait vendu comme le truc qui va révolutionner la musique et qui va tuer l'iPod. L'iPod killer.
Là, on parle d'il y a 20 ans. Est-ce que ces 20 dernières années, tu.
Non, mais le Vaio Pocket, c'était en 2003.
Vous n'avez jamais jugé sur des choses.
Oh, bah si.
Si, les trottinettes. Les trottinettes, par exemple.
Les trottinettes électriques.
Mais en fait, la trottinette électrique.
Le Segway.
Le Segway, on n'en a pas vraiment vu, tu vois. C'était plus des proof of concept que des.
Les Google Glass, on s'en est bien fous. Ouais. C'est bien foutu de leur gueule.
Oui.
Pas moi, les
AirPods.
Pas moi. Rappelez-vous. Ouais. AirPods, ça vient de Google, moi, je suis chaud.
Les AirPods, figure-toi que pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en train de chercher sur Amazon une paire de AirPods avant de me rendre compte qu'en fait quand tu pensais les acheter les officiels souvent tu recevais une copie chinoise donc du coup j'ai pas validé l'achat mais j'étais chaud. Je me suis dit ça y est c'est
pourtant
foutu.
Mais c'est trop tard. C'est tous foutu de la gueule l'AirPod
complètement.
Et même aujourd'hui je vois les gens dans la rue je fais putain j'arrive pas à m'habituer mais ça a l'air bien pratique quand même.
Ah c'est devenu ouais mais là il fait chaud.
Mélissa t'as des AirPods toi?
Non Nicolas il en a.
Ah d'accord ok mais c'est cool les AirPods.
On a beaucoup parlé de hardware mais est-ce que ça marche sur le software aussi le AM? Est-ce que les mecs sur Google Wave?
Ah oui
les mecs sur Google Wave parce que dans les caractéristiques que t'as donné ça correspond c'est
à
dire l'écriture en temps réel on l'a ensuite sur Drive.
Même les gens qui sont allés sur Mastodon ou Hello je pense.
C'est vrai que les early adopteurs du web ça existait aussi parce qu'ils arrêtaient pas de hurler à tout le monde c'est la révolution rejoignez-moi sur ce truc là sur Vero.
Sur Vero
au hasard.
Non mais Vero c'est vraiment récent, on avait déjà vu des alternatives à Facebook qui n'ont pas marché.
Hello, ouais.
C'est vrai que Google Wave c'était fou.
Google Wave en fait technologiquement les trucs qu'on a eu genre Hello, Vero, machin c'est juste des alternatifs à des choses qui existent déjà. Google Wave technologiquement c'était taré quand même.
Mais il va encore défendre Google
bien sûr
mais, non, mais là je suis d'accord
Google, sauf que, en fait, tout ce que t'as trop... dans Drive aujourd'hui tu l'avais dans Google Wave
un late adopteur du malaise
c'était trop Google Wave en fait les gens n'ont pas compris
c'était trop d'un coup
il y avait un peu de Slack il y avait un peu
mais dans le early adopteur du malaise il y a cette notion de tu le portes et t'es vraiment ridicule aux yeux de tout le monde genre l'oreillette Bluetooth
on a tous vu cette image du mec qui est sur un Segway avec une oreillette Bluetooth en train de vaper. En fait, cette image, je sais plus où a été cette image, était incroyable.
C'est ça.
Où tu dis, je ne veux pas être cet homme.
Mais à partir de quel moment alors? Parce que par exemple, tu vois, moi je considère que la trottinette électrique, c'est totalement EAM. Ouais. Pourtant, il y en a, mais absolument partout. Je veux dire, même chez Webedia, il y a un chapter de Xiaomios avec tous la même trottinette à 250€ là.
C'est vrai que la trottinette, il y a un cas parce qu'il y a plein d'articles en ce moment, justement, c'est le fameux. Tu peux les lire par dizaines chez Journée, c'est les post-médiums du « J'ai voulu détester la trottinette électrique, mais j'ai testé à San Francisco et je suis accro. » Et tout le monde partait du principe de « Je voulais la détester, t'as l'air d'un blaireau dessus, mais en fait c'est génial. »
Je dois avouer que je vois des mecs dans le métro être hyper agiles en trottinette et aller hyper vite, beaucoup plus vite que moi, et je commence à trouver sa classe.
Ah c'est interdit en plus dans le métro normalement.
Oui, mais là c'est trop tard, t'es plus un early adopter. Si t'achètes une trottinette en 2018, t'es mainstream.
Alors justement, est-ce que à l'autre bout du scope, il y a pas les PAM, les post-adopteurs du malaise, genre tu adoptes la techno quand c'est déjà mort et enterré, tu vois. Le gars qui arrive sur MySpace au moment où tout le monde se barre, celui qui s'ouvre un compte Snapchat.
Le Segway par exemple, il était ridicule, early adopter du malaise. Puis il y a eu ce fameux Noël où tout le monde a acheté des Segway en board.
Segway, c'est quoi?
Segway,
c'est un circuit dans Ridge Racer et je comprenais pas.
Bon, anyway. Comment s'appelle ce truc?
Les overboards.
Les overboards. Ouais. Et les overboards aujourd'hui, c'est un peu le truc de malaise qui est super vendu dans les articles.
Pour moi, c'est la tectonique des patinettes. Hein. Ouais, c'est genre, ça a duré 3 mois. C'était génial 3 mois, c'était infernal 3 mois plus tard. Mais
la
genre,
tectonique.
C'est vrai, ça fait tac, tac et tac.
Et c'est ça. Là, le poste, c'est ça pour répondre, le poste adopteur du malaise.
Non, mais
ils en vendent quand même.
C'est différent pour l'overboard parce qu'en fait, il y a eu plein de knock-off chinois avec des batteries qui prenaient feu.
Oui.
Ou du coup, ils ont dû changer la législation dans les
Amazon.
Ça a flingué le truc.
Au-delà de la sécurité, est-ce qu'on n'est pas censé justement. Parce qu'on est dans le numérique, qui est aujourd'hui le plus gros driver d'innovation et d'expérimentation sur le marché depuis, on va dire, 20 ans. Est-ce qu'on ne serait pas censé justement être passionné du numérique, donc tout tester, ne jamais juger en fait, être des Loïc Lemaire ou des Robert Scoble sous la douche avec tes Google là, sans je les enlèverai plus jamais, tu vois.
Si tu fais ça, t'es un journaliste de 01 net et c'est pas nous ça.
Non, moi j'ai cette posture un peu, franchement, dès qu'il y a un truc qui sort,
génial.
Je teste. Hein.
Tout est génial.
Pas tout est génial, mais je teste.
Il y a tester et adopter, encore une fois, c'est pas des early testeurs, on parle bien d'early adopteurs, c'est des gens qui vont porter leurs couilles en portant leur oreillette Bluetooth, tu vois, en disant c'est génial, j'adore, je veux que le monde en ait plus. C'est pas juste tester.
C'est encore plus loin que ça. C'est genre, parce que j'ai ça dans le jeu vidéo, et un jeu vidéo qui sort, on sait pas ce que c'est, les gens ils veulent le tester avant tout le monde. Tout le monde, ils veulent y jouer, ils veulent être dedans, tu vois. Le produit n'a pas d'importance, ils veulent l'avoir, tu vois.
Oui.
C'est assez intéressant.
Il y a l'hystérie à être.
Voilà. Ça, c'est l'effet de masse, ouais.
C'est à ce côté non conquérant d'un territoire inconnu. J'ai posé le pied en premier là, tu vois. Et quand il y a 20% des gens un peu dans la techno qui commencent à en parler, ça les intéresse plus.
Normalement, 70% du kiff quand t'es early adopteur, du malaise ou pas, ouais, c'est d'expliquer aux gens qui comprennent pas quel est cet objet ou quel est ce service que tu
utilises. Oui, c'est toujours le kiff.
Ah, tu connais pas? Attends.
C'est faire une one fan.
Voilà, exactement. Exactement. Mais ça marche bien, il est fort lui.
Ouais, c'est un bon commercial.
Il est fort. Hein.
Du coup, est-ce que vous êtes aussi un moment fibre où tu parlais de, c'est, on va dire les EAM, les Early Apple Adopters, ouais, tu vois, donc ceux qui attendent le point Apple, comme tu disais, le point où à un moment le produit il est assez cool pour dire bon en fait là c'est cool, c'est mûr, c'est mature.
Apple se met dessus.
Donc voilà, effectivement, nous on a tous porté nos lecteurs MP3 128 mégabits autour du cou qui marchaient pas, qui étaient incompatibles avec les telles normes.
Acheté à surcouf.
Et puis il y en a qui, les mignons sont vraiment rêvés que l'iPod. On a tous acheté des smartphones foireux de chez Nokia.
Quand l'iPod est sorti, lecteur MP3, je disais, moi je peux le brancher en USB, juste faire glisser les dossiers, pas en iTunes. Ouais.
Quand l'iPod est sorti, il fallait même un Mac. Donc ouais, c'était double mort, tu vois.
Non, c'est l'iPod qui a annoncé l'arrivée de iTunes sur PC justement, tellement que l'iPod a eu du succès. Est-ce que vous êtes des fois conservateur comme ça, en mode j'attends la énième itération pour me dire ok là je craque.
Le temps qu'ils répondent, juste il y a un petit terme pour ça que j'ai inventé. Tu sais, il y a un terme odieux que je ne cautionne pas qui s'appelle le woman acceptance factor.
Oui, le WAF.
Le WAF acceptance factor, c'est-à-dire que tu achètes, enfin un produit, tu peux l'acheter si ta femme va l'accepter dans le salon.
Alors évidemment, Fibre ne cautionne pas du tout.
Ah non, je ne cautionne pas. Mais justement là, on est dans le everybody acceptance factor.
Si, on voit bien tes yeux, Mélissa.
Moi je cautionne pas, mais si j'ai pas de tour thermaltech de 1m35 dans mon salon, c'est quand même parce que je vis avec une meuf. Hein.
Mais
je cautionne pas le WAF, je suis complètement d'accord.
Non mais tu vis avec quelqu'un.
Oui, tu vis avec quelqu'un tout court.
Peut-être que si c'était pas une meuf et que si c'était par exemple mon meilleur ami, on serait content avec nos tours serveurs Thermaltech RGB. Tu vois.
Ça te servirait à quoi juste pour savoir?
Hein?
Ça te servirait à quoi?
Un ordinateur avec des lumières, tu peux savoir s'il y a trop de mémoire ou pas juste en regardant les loupiottes.
Tu peux connaître la température, la vitesse des ventilateurs.
Attends, tu rigoles ou quoi?
Tu peux aussi faire une soirée entière sans ajouter de lumière. Tu peux éclairer ta soirée avec.
Bref,
tu
auras une petite facture d'électricité. Alors, bien
de la même façon, il y a le Everybody Acceptance Factor, c'est-à-dire la techno qui fait que tu peux sortir avec et les gens vont pas te juger, ils vont t'accepter en société. C'est ça, c'est le point, quand tu le passes. Voilà, et là tu deviens un produit Apple.
Alors moi il y en a un qui m'a marqué, c'est les gros écrans. Les gens qui sont avec les premiers Samsung Galaxy ou les premiers Note, tout le monde se foutait de leur gueule en se disant mais tu vas pas téléphoner avec une dalle, tu vois, ça tient pas une main, t'es la ridicule, tu téléphones pas avec une tablette, et tout le monde s'est foutu de leur gueule. Et ces gens, donc les premiers qui ont eu les Samsung Note et les Galaxy S, ont encaissé pour tout le monde. Et moi au début je me suis foutu de la gueule des mecs, et à un moment j'ai eu un iPhone Plus, donc un gros téléphone aussi, en mode j'en suis revenu, mais pas parce que j'ai honte, parce qu'en fait mon usage est différent, mais c'est j'ai jugé pratique. À mort ouais. Les gens qui téléphonaient avec des Galaxy Note ou des, c'était à partir du S2 ou du S3 que ça devenait gros. J'avoue que j'ai jugé à mort et que j'ai fait un everybody adopteur avec
acceptance factor.
Quand la moitié des téléphones Android en fait faisaient plus de 4,5 pouces et que même Apple a dû fermer sa gueule
et suivre les Chinois.
Exactement.
Non, moi, mon facteur d'acceptance de tout le monde, parce que je l'ai traduit en français, c'est plutôt un facteur d'acceptance budgétaire généralement. C'est-à-dire que quand le produit sort, il est beaucoup trop cher pour que je puisse me le procurer. Donc j'attends effectivement qu'il y ait une nouvelle itération pour acheter la première version.
Le craco.
Et oui, je pense aux étudiants, à nos auditeurs étudiants qui n'ont pas d'argent.
Qui n'ont pas d'iPhone, non.
Daz, Mélissa, est-ce qu'il y a des moments où vous avez été particulièrement. On suit la masse. Allez, on suit
souvent.
La masse, là.
J'ai eu un 3310, j'ai eu un iPhone.
Mélissa, elle a fait toutes les routes.
J'ai été bonne élève, quoi. J'ai fait genre, ça marche, je crois. C'est bien, marrant, c'est efficace. J'ai un Google Home.
C'est un Google Home.
Ah, t'as un Google Home.
Tout à fait.
Pour moi, on est encore dans l'EAM, hein, avec
un Google Home
les
assistants
vocaux.
Et un HomePod.
C'est marrant parce que.
Ah oui, t'as un HomePod.
C'est pas moi.
Ça, c'est acheter des HomePods.
Ça, c'est le Husband Acceptance Factor, ça. C'est le HAF. Non, mais c'est marrant parce que, en fait, tu réhabilites les early adopters. Parce que quand on parle, on a l'impression que c'est des gens qui se faisaient bully et oh les pauvres, on se fout de leur gueule. Mais eux,
ils ont tellement l'impression de poser leurs couilles sur la moitié de l'univers.
Oui, c'est ce qu'ils disaient.
Le programme des gens qui avaient les Google Glass en premier, ils payaient très très cher, genre 3000 euros ou des trucs comme ça. Ça s'appelait le programme pionnier.
Ouais. Non, et après, t'as le Explorer à 1500 $.
Les mecs s'appelaient les pionniers entre eux, quoi. Nous, on les appelait les glaçons, ils s'appelaient les pionniers. Désolé, on n'est pas sur la même planète.
Ouais, parce que moi, en fait, je me rappelle que, enfin, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours essayé de pas avoir le truc à la mode et d'avoir une alternative viable.
J'ai un exemple pour toi, Daz. Star Citizen.
Ah bah ça c'est l'EM dans tout
ça. Ah bah ça c'est l'EM total ça. Mais moi j'étais sur Elite Dangerous 2 ans et demi avant que ça sorte.
Mais toi t'étais pas EM sur Star Citizen, on est d'accord.
Mais non, parce que j'étais déjà
toi,
dans Elite.
Toi tu te moques de... Tu
j'étais, en avance sur les Star Citizen en disant les gars, il y a un jeu qui fonctionne déjà et il est disponible en fait.
Non, tu les bullies et tu as testé récemment. Et t'as dit pourquoi pas. Tu vois, on n'est pas encore dans les vrais body acceptance factors.
J'ai dit le potentiel était cool, mais oui, moi j'ai pas 4000 euros à mettre dans un logiciel. Par contre, là où je rejoins le truc et où finalement t'as la façon dont tu m'as prototypé, elle est fausse. C'est que quand tout le monde avait le 5110, j'essayais d'avoir le 7110. Quand tout le monde avait l'iPod, j'essayais d'avoir un truc de chez Sony. Enfin, j'ai toujours essayé d'avoir autre chose. Donc, non. Je suis un connard.
En fait, ouais, t'es hipster.
T'es un petit hipster.
Donc, un connard, un sale con. Ah,
à chaque numéro de 404, on découvre qu'il est droit, que c'est un hipster. Passée. En fait, le mec. Daz, le masque tombe.
Posez-moi les questions au lieu de faire comme si vous faisiez des meilleures chroniques de la Terre. Je serais ravi de vous répondre.
Moi, j'ai un parallèle un peu douteux. Voire un peu raciste.
Ah bah c'est le podcast pour.
Je sais pas si je le lance ou pas. Avant le numérique, il y avait des modes de gadgets comme ça, des trucs qui sortaient. Et il y avait des gens, moi quand j'étais à l'école, qui chopaient ces gadgets toujours en premier. Et c'était la communauté asiatique beaucoup.
Ouais.
Qui a toujours eu les yo-yo en avance, les Tamagotchi, les Pog, les machins. Ils avaient toujours les trucs en avance, les skates, les trucs comme ça. Et du coup, voilà, c'était mon parallèle.
C'est le Factory Acceptance Factor. Parce que eux, ils avaient les usines, c'est ça. Les FAF, ça s'appelle les FAF.
Oh putain. La boucle est bouclée.
Ah là là, ce dérapage magnifique. J'ai envie de te dire, c'est racisme. En fait, j'étais complètement dans ce truc-là.
Ouais, toi, t'étais dans.
J'étais le premier mec avec un home cinéma dans ma chambre à 14 ans. j'ai contracté un emprunt sur un an pour avoir 5 points dans ma chambre avec une télé Grundig. J'avais des laser disques, quoi, merde.
Non, mais même, t'as eu un hand spinner un mois avant qu'on en parle.
J'ai eu un hand spinner, c'est vrai, j'ai eu
ce genre de choses.
En métal.
Il nous a montré un hand spinner, on savait pas ce que c'était. Et un mois après, tout le monde en parlait, quoi.
Non, mais le sien, en plus, il était genre en magnésium, tu vois, avec des inserts de bakélite.
Il nous disait, mais sur YouTube, il y a plein de mecs qui les testent, et nous étaient là, mais non, c'est une niche ton truc.
Là, c'était malaise, du coup. En fait, quand ça a été adopté, c'est devenu malaise, je trouve.
Ouais,
tu vois, là c'est un truc inverse, c'est que ça allait, c'était un truc de Redditos, tu vois, avec des problèmes de concentration, donc c'était cool. Et quand c'est devenu Everybody Acceptance Factor, c'est devenu, ouais, un truc d'enfant.
Hand Spinner Magazine.
Exactement. Un peu comme Fortnite, tu vois. C'était un peu cool d'y jouer, puis là, c'est l'inverse, tu vois. T'es l'early adopter, mais tu te casses parce qu'en fait c'est cringe.
Ah,
en fait.
On m'a pris mon jouet, alors je boude, bubu.
Bah, exactement ce que tu disais toi. Ah, il n'y a pas eu de la rive, je vais me lancer et aller acheter du Sony, du machin.
Ouais,
je
veux
pas avoir
coup,
comme
ouais.
Tout le monde.
Voilà.
Ah, ils sont tous un 50.
Mais pas avoir comme tout le monde après. Est-ce que si genre je prends un truc qui est l'alternative à l'iPod, par exemple un Zune. Est-ce que si tout le monde alors ça reste une piste, tu vois.
Ça c'était late adopteurs du malaise.
C'était Microsoft. En
c'était
fait.
C'était du LAM.
Mais du coup, est-ce que si tout le monde avait pris un Zune, j'aurais lâché le mien en disant non, je retourne chez Apple. Je sais pas, tu vois, je pense pas.
Ah ouais.
Ah, je pense pas. Je pense que je serais resté en disant ah, vous faites comme moi.
Voilà. Les Zunes, je vous l'avais dit.
Le futur.
En fait, tu devrais acheter des early adopters du snobisme, en fait, aussi, tu vois.
C'est compliqué.
C'est un early adopter du snobisme. C'est complexe. Hein. Dernière chose avant la fin de cette chronique. Quel est le prochain malaise sur lequel vous avez vraiment envie de parier, quoi? Un truc, une technologie nouvelle, une pratique nouvelle, un réseau nouveau. Imaginez que vous êtes en 2014, vous découvrez les stories, voilà, ce genre de choses, et que tout le monde vous juge parce que vous faites des stories sur Snap, mais, ou qu'il y a une techno qui arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous excite de manière irrémédiable, malgré le fait que vous savez que le jugement sera terrible, le jugement des autres sera terrible, notamment des autres personnes autour de cette table, qui, on rappelle, les fibres à raison là-dessus, ont un sport national qui est de faire des podcasts et de juger les autres.
Alors, les fibres. Une techno qui va revenir en une deuxième fois, qui a été morte une fois, une deuxième fois, et là, qui va, peut-être une même une troisième fois, là, c'est la VR.
Ouais.
Parce que la VR, là, on va avoir des vrais Oculus sans aucun fil.
Ouais.
Ils arrivent vraiment, c'est dans 2-3 mois, 3-6 mois plutôt, notamment Oculus qui a un prototype comme ça, et je pense que...
C'est le Go ou des vrais Oculus de PC? Non,
c'est des vrais Oculus de PC, bon, Daz dit non, moi en tout cas...
Bon, il y a le Vive sans fil.
Il y a le Vive sans fil, mais j'ai vu des beaux protos très sympathiques, en tout cas chez des devs, donc, et les mecs ils y croient à fond, tout le monde y croit à fond, je pense que les journalistes ils vont dire c'est quand même top. Et est-ce qu'on va avoir des mecs dans la rue comme dans Ready Player One qui ont des vibes? Non mais c'est ça la promesse aussi. Des mecs dans des restaurants ou dans des gymnases, je sais pas, qui ont tous, parce qu'il y a aussi ces jeux hyper collaboratifs des Counter-Strike avec des gens dans des gymnases et voilà. Je pense que ça va être un peu le malaise. Je pense que ça va pas marcher encore une fois, une troisième fois, mais voilà.
Et les tapis roulants omnidirectionnels chez soi.
J'ai fait une story hier, je sais pas si
t'as vu. C'est pour ça que j'en parle.
Ready Player One sur 20, ce truc. Ready Player One qui est un vrai late adopteur du malaise, lui, du coup. Hein, parce que lui, il arrive après la guerre et c'est. Bref. Je vous ai dit que ce film était nul.
Non, ça me.
Je suis pas sûr. Sylvain Mélissadas, est-ce que vous avez une petite techno, un truc que vous sentez bien qui va tourner mal?
Moi, j'ai une techno, les wearables, donc. Tout ce qui est intégration de la technologie dans les trucs, dans les vêtements, notamment avec des écrans et des conneries comme ça, moi je suis ultra chaud, j'attends que ça sorte pour pouvoir mettre des messages débiles dans le dos, tu vois, des trucs comme ça. Et je sais totalement
un an
après, je dirais, mais je suis complètement débile, mais je vais le faire.
Tu vas te brûler le dos là, avec des courts-circuits.
Comment au niveau de la machine à laver?
Pourquoi tu poses des questions ultra triviales?
Une veste en jean Levi's, tu la passes pas à la machine?
Bah oui, il y a des gens, ils mettent leur jean au congèle pendant 6 mois avant de la
laver.
Ils
prennent des bains avec.
Tu poses des questions de everybody adopter.
Non, mais justement.
Les gens à la défense te taper dans mon dos.
Non, mais il y a des protos de Levi's avec Google, etc. Yes. Et moi, j'attends ça, mais impatiemment, mais j'attends que ça tombe chez les Chinois. Que t'achètes ça sur Amazon pour un quart du prix.
Ça te pète dans le dos, ça va tellement te péter dans le dos, ce truc-là.
Avec des messages, interdiction de venir avec une veste connectée pour prendre l'avion, tu vois, des trucs comme ça. J'adore. J'ai hâte.
Toi, tu as vu le trailer de Cyberpunk 2077 ou?
Oh, il était chaud, le col.
Le du héros
col avec le col. En LED. Oh là 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 là.
C'est plus un col en laine, hein, c'est un col en LED.
Oui, c'est bien chaud.
Sylvain Mélissadas, est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez adopter, même si vous savez que ça va être le malaise total?
Bah, moi, j'attends impatiemment les lunettes, mais pas de réalité virtuelle, de réalité mixte.
Ah oui, je suis comme toi. Des Google Glass qui vont au bout de la province.
Voilà, des HoloLens par exemple, mais des trucs assez portatifs. Et je pense que je vais me hyper comme un ouf et que ce sera comme la VR, hein, la première vague, et faudra attendre la troisième pour que ça prenne vraiment.
Dans le genre, les HoloLens, dans le genre early adopteur du malaise, quand tu vois les start-upers courir partout et des conférences avec les HoloLens sur la tête toute la journée.
Ah, il y en a comme les Glass Halls.
Ah ouais.
Oh, putain, mais c'est immense, c'est hyper imposant.
Les HoloLens, c'est gigantesque, ils avaient vraiment l'air de gros blaireaux, quoi.
Putain,
ils passaient leur temps à faire comme ça avec les mains tendues devant eux. En marchant
partout. Le mec marche 10 mètres. Ah, plus de batterie. Ah, putain, je savais que j'aurais dû prendre le sac à dos en accessoire supplémentaire.
Mélissa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais.
Je sais pas.
Un site ou une technologie que tu voudrais adopter, même si.
J'aimerais.
Tu sais
j'aimerais savoir, j'aimerais avoir le temps de trouver. Mais les HoloLens, ouais. Version 12.
Ah non, mais justement, donc là tu tombes dans le
everybody.
Non, mais ça, c'est la génération Apple. Elle attend que ce soit l'itération pour que ce soit.
Non, mais moi, j'ai déjà expliqué ici ce que je voulais en réalité mixte. C'est toujours pas arrivé, donc j'attends le produit.
Elle est beaucoup trop self-conscious, Mélissa, pour se laisser tenter par l'inconnu. Attends. Ouais. Bien sûr.
Je voulais juste signaler à tout le monde que le Leap Motion revient en grâce. Hein.
Hein ?
Et c'est pas grâce à toi.
Non, c'est pas grâce à moi, mais j'en ai toujours un. Donc du coup, je le vends 140 euros. Je l'ai acheté 70.
C'est un collector.
Première version.
Ah, le Leap Motion. C'est eux qui ont fait les lunettes, on dirait des Oakley foireuses ?
Ouais.
Ah là, c'était dur ça.
Et en fait, ils ont lancé un kit pour que ton Leap Motion, vraiment des années 2009, 2010, non, plus tard que ça quand même, 2013, tu les colles sur ton Oculus et ça te permet de voir tes mains.
Ah oui, ah, je l'attendais ça.
Et oui.
Et petite question bonus, est-ce que vous avez un usage réseau ou internet qui a été malaise et qui a été trop early? Genre mettre des emotes licorne à la fin de vos messages.
Mettre des nez sur les smileys par exemple.
Comment ça s'appelait?
Toujours pas.
Un truc qui était early adopter à l'époque, on s'est foutu de votre gueule pour ça et puis maintenant tout le monde le fait ou.
J'ai envie de te dire ce qui a précédé Bitmoji là, comment ça s'appelle?
Un truc pour faire des portraits, non?
Avant que Snapchat rachète Bitmoji et demande à tout le monde d'en faire, il y avait un truc qui s'appelait.
Ah, avec des filtres déjà un peu.
Des personnages, quoi, direct des personnages.
Ouais. Des personnages en comics.
Comment
là,
ça s'appelait? Ouais. Et t'avais des sketchs, t'avais des
ah
machins.
Ah oui, c'était hyper malaise.
Ah, c'était malaise.
Mais ça, on l'utilisait de manière ironique en fait. Déjà. C'était déjà de manière ironique.
Ah non, moi, le premier, je l'ai fait complètement premier degré.
C'est vrai.
Mais moi, je suis pas du tout à la page sur les trends des hypos. Qui prennent un truc au troisième degré, moi je suis à fond, je l'ai direct.
C'est beau. Tu juges mais tes premiers degrés, c'est beau.
Ah mais c'est ça, c'est reconnaître ses faiblesses.
Ah oh, c'est daze. C'est daze.
Bienveillance les gars, 2018.
Bon, on verra sur le forum en tout cas si les auditeurs ont des petites histoires là-dessus, sur des choses sur lesquelles ils ont parié, des choses qu'ils ont portées fièrement.
Oh, bah,
peut-être qu'ils regrettent amèrement aujourd'hui, mais en tout cas qu'ils ont porté fièrement. Et comme tu dis, Fibre, ce sont des héros anonymes de la grande lutte du progrès.
Voilà, ne vous moquez pas d'eux.
Ils sont tombés sur le champ, les early adopteurs du malaise. Allez, on attaque tout de suite la première FAQ.
FAQ.
Une question d'un de nos auditeurs qui s'appelle Hugo Viala. qui nous demande « Si Twitter avait existé depuis la nuit des temps, quel personnage historique aurait été le meilleur tweeto ?» Ou la meilleure tweeta. Sachant qu'on a des petits comptes fake de personnages des années Get Down qui sont assez drôles en général. Est-ce que l'esprit de Twitter tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce que vous auriez un personnage historique? Je sais pas, Attila Vercingétorix, Catherine de Médicis.
Marie-Antoinette en Instagram, vous attend.
Pas en tweetos, mais j'avoue.
Ça serait ouf.
Marie-Antoinette en Instagram.
T'imagines des petites stories dans le château de Versailles, là?
Avec les nouvelles robes, les nouveaux gâteaux tout colorés.
Mortel.
La petite décapitation en story finale.
Ça serait intense.
Bon, c'est pas du Twitter, mais on accepte complètement ça.
Moi, je dirais.
Sylvain.
Et on l'aurait de manière contemporaine à notre époque, là?
Oui, bien sûr.
Alors, Léonard de Vinci, juste pour qu'il clash Elon Musk. Et qu'il dise, mec, j'ai inventé le parachute il y a 500 ans, là, ferme ta gueule, plus que ça d'ailleurs.
Oh, le clash.
Mais non, mais
clash sans respect.
Clash vraiment. Sans respect. Léonard de Vinci, il était hyper cash, il était autiste, pas de problème.
Mais Galilée.
Galilée
de ouf, lui, il aurait créé le mouvement des gars qui croient que la Terre est ronde.
Tout
le
monde s'est foutu de sa
gueule. Je vous jure, elle tourne et tout, tu vois, et tout le monde se foutait de sa gueule.
Le Rounders Club, je sais plus comment ça s'appelle.
Le Rounders, ouais. Ouais, Galilée, ça serait mortel.
Tout le monde l'aurait accusé de complotiste, de fou.
Ah, mais les débiles, le mec qui croit que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur un axe autour du soleil, mais n'importe quoi.
Brûlons-le, moi, voilà.
Après, tu sais, tout de suite,
ils s'ambiancent entre eux, ils sortent des études fake et tout, c'est fou. Fibre.
Une réponse un peu érudite, tu vois, mais il y a un mec de l'Antiquité qui s'appelle Cicéron.
Ouais.
Donc, déjà, c'est un avocat, donc Maître Eolas, tu vois. C'est un mec qui s'énervait souvent, tu vois, genre je suis pas d'accord, jusqu'à quand tu vas nous casser les couilles, tu vois. Et aussi qu'il faisait des blagues, tu vois, il tauntait vachement les gens,
ah
tu vois.
Ouais,
genre, il y avait un mec qui était un de ses rivaux, il était un peu petit et il avait une épée et il disait, mec. Qui t'a attaché à cette épée, tu vois. Donc il faisait des blagues et du coup je pense que ça aurait été un excellent tweeto.
Très bien. Ouais. Cicéron, Léonard de Vinci, Marie-Antoinette
et Galilée.
Et Galilée, voilà pour ta reco. Hugo, on attaque tout de suite la deuxième chronique et là place au silence puisque Sylvain s'attaque à une terre presque inconnue.
Sujet numéro 2.
Si vous criez dans une ville fantôme du web, vous entendrez l'écho du web originel.
Quand soudain, rebondissement durant l'enregistrement de Studio 404. Partis d'Italie, ils arrivèrent dans un bar québécois. Pour échapper un peu au bruit et en avoir un autre plus sympathique, mais c'est ça, les joies du digital gitanisme 2.0, c'est ça les joies des early adopters du podcast Nomade. Nous sommes là et c'est une belle aventure. En tout cas, nous reprenons maintenant dans une nouvelle ambiance avec une nouvelle chronique. Et c'est Sylvain Palais qui nous parle des villes fantômes du web.
Je descends de mon cheval devant ce qui semble être le saloon de cette ville, si on peut appeler ça comme ça. Les rues sont vides, le vent siffle en passant entre les volets mal attachés. La poussière est partout, mais la vie, elle, n'est nulle part. La porte du saloon grince quand je la pousse. À l'intérieur, trois lueurs de vie. Deux mecs à une table qui jouent aux cartes en silence et qui ne lèvent pas la tête à mon passage, comme si je n'existais pas. Et le barman, qui se tourne lentement vers moi, marque une pause en me fixant comme s'il cherchait ses mots. Comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Puis il m'annonce d'une voix monocorde. Bienvenue sur Mastodon 6 ou 42. Vous êtes sur le fil global. Il y a deux personnes connectées. Il y a 5 jours de cela, l'âme me parle d'un article de Elena Fitzgerald intitulé Le déclin de Snapchat et les joies secrètes des villes fantômes d'Internet. L'auteur nous y décrit son utilisation de Snapchat, déserté par la grande majorité de ses amis, les pauvres. Et elle nous le décrit comme un jardin secret qui lui rappelle les débuts d'Internet. Comme nous avons des auditeurs à peine majeurs, hein, coucou Agathe, et Valuna et Gabi et les autres, je vais rappeler brièvement à quoi ça ressemblait le début du web social. Alors imaginez, nous sommes en 2009, vous êtes donc à l'école primaire, vous autres, et c'est à peu près à ce moment-là que les Français découvrent Twitter et Facebook. À cette époque, c'est assez compliqué pour les pionniers, les early adopteurs que nous étions, d'expliquer à nos proches et nos collègues pourquoi nous écrivions des phrases à la troisième personne, comme « est allé au travail à vélo aujourd'hui » sur un site internet.
C'est vrai.
Mais tu écris à qui ? À mes followers. Et c'est qui tes followers ? C'est des gens qui me suivent, du coup. Et tu les connais comment ? Ben, je les connais de Twitter. Tu veux dire que tu les as jamais rencontrés ? Si, certains d'entre eux, un apéritweet. Et ça les intéresse, ta vie ? Je sais pas trop. Il faut bien comprendre que la mise en scène de soi, largement répandue de nos jours, eh bien, à l'époque, c'était pas si évident, et nos proches nous trouvaient un peu chelous. Les seules personnes qui prenaient ce genre de risque, c'étaient les blogueurs. Le blog était alors le référentiel de la production en ligne. C'était vraiment la référence de comment on créait du contenu. D'ailleurs, on a longtemps décrit Twitter comme une plateforme de micro-blogging. plusieurs personnes autour de cette table ont été, sont toujours des blogueurs, hein, l'âme d'Az. Quelle petite révolution à l'époque, rappelez-vous, de raconter sa vie privée à une poignée d'inconnus.
Oh oui.
Peine de cœur, deuil, réussite, amour, retour de l'être aimé, tout y passait. Les blogs étaient les journaux intimes mais pas privés, secrets mais pas fermés. Et souvent, ils étaient lus par les copains d'Internet. Hein, on ne savait pas trop ce que c'était, mais en tout cas, pas par les copains de la vraie vie. Ni par les collègues, ni par la famille. Twitter a été comme ça également pendant un temps. Une sorte d'échappatoire à la vraie vie, un territoire inexploré, un lieu d'expérimentation où on pouvait expérimenter son identité, en fait. Aujourd'hui, la récréation est terminée. Ces réseaux sociaux sont désormais des médias de masse et Internet est global. Du village global, on est passé à la plus grande ville du monde dans laquelle chacun a fait une croix sur son intimité. IRL égale URL, pour reprendre cette expression qui est de moi. Pardon de m'auto-citer.
Bravo,
mais quand
bravo.
Les formules sont belles, il faut le dire. Hein, voilà. Lorsque ses amis ont soudainement déserté Snapchat, hein, Elena Fitzgerald, elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'avait pas imaginée. Quasiment seule, arpentant une ville fantôme, elle a commencé à poster des contenus qui normalement sont considérés comme pas très quali dans le merveilleux monde des réseaux sociaux. C'est-à-dire des selfies moches, des statuts à propos de problèmes d'argent, de problèmes d'écriture, parce qu'elle est écrivaine. Bref, de l'intime, du vrai, du comme avant. Ses abonnés sont pas forcément des proches, ils sont une centaine d'après ce qu'elle écrit, mais ils réagissent, ils discutent, ils partagent également le même type de contenu. Dans ce réseau en train de mourir, comme elle le décrit, mais je pense qu'elle exagère un peu, elle a retrouvé ses sensations oubliées. Alors, vous me connaissez, je suis un grand nostalgique, j'ai donc sauté sur l'occasion pour tenter, moi aussi, de revivre ce paradis perdu. J'ai d'abord réactivé un vieux Tumblr anonyme dans lequel j'avais déjà partagé des pensées assez intimes à l'époque. Mais sur Tumblr, l'environnement et les mécaniques sont trop connus, les ficelles trop usées. Abonnement, abonné, fil d'actualité, on connaît la chanson. C'est comme ça que j'ai atterri sur Mastodon, qui propose de l'inédit dans son fonctionnement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est semi-local, semi-global, avec un système d'instances, c'est-à-dire qu'on peut se connecter sur plusieurs Mastodons, plusieurs serveurs différents. J'ai donc créé un compte sous pseudo sur une poignée d'instances pour voir, et j'ai commencé à partager des choses. Je dois bien avouer que je suis un petit peu moins enthousiaste que cette chère Elena.
Ah bon, comment ça?
En fait, la liberté que l'on ressent à pouetter, c'est le terme français de tweeter sur Mastodon, on dit pouetter.
C'est quoi le terme anglais du coup?
Je sais plus ce que c'est toutes. C'est toutes, c'est ça.
Comment on a passé de toutes tout à tout pouette?
Je pense qu'il faut demander aux libristes.
Bah, toutes, c'est l'onomatopée des bateaux. C'est toutes.
Et donc en France on dit pouette.
Putain de libriste.
Donc effectivement on ressent une certaine liberté à pouetter ce qui nous passe par la tête sans avoir peur des conséquences et de l'image qu'on aura de nous. C'est assez grisant. Mais le problème de Mastodon, c'est que c'est pas une ville fantôme, c'est un putain de cimetière en fait.
Carrément.
Sur les instances francophones ouvertes, le dernier message date en moyenne d'il y a 12 heures et on a une chance sur deux pour qu'il s'agisse d'un mec qui a lié son compte Twitter et donc qui est pas vraiment là avec nous. Et l'autre moitié, c'est des types qui parlent de Linux, de toute façon. Donc oui, sur Mastodon, je parle librement, mais je parle surtout dans le vide intersidéral.
Oui.
Et pourtant, j'ai repéré des communautés qui semblent être, ressembler à ce dont j'ai besoin. Genre une communauté d'une centaine de personnes avec une meuf qui pouette toutes les heures une photo de son chat. Moi, je trouve ça intéressant. Mais c'est des instances qui sont fermées, généralement, et réservées à des amis, des communautés précises. Il faut rentrer par cooptation.
C'est un peu chiant.
Donc, j'ai pas pu profiter voilà, du pouettage de chat. Je vais quand même continuer à persévérer, continuer à mener l'expérience, car j'ai très, très envie, en fait, de retrouver ces sensations de l'Internet originel. Et puis, du coup, je me suis demandé, si on a tant besoin de s'évader des réseaux sociaux contemporains, c'est que c'est devenu très grave, en fait. Ça veut dire que toute la journée, on est sur Twitter, on prend sur soi, on se retient, on serre les dents, on ferme les yeux. Un peu comme les mecs qui bossent toute la semaine dans une start-up, font semblant de sourire, en attendant fébrilement le week-end pour aller planter la tente dans le Massif Central. Ou alors les salariés japonais qui, le vendredi soir, vont s'anesthésier le cerveau dans les salles d'arcade avant de s'anesthésier le foie dans le caniveau.
Claire.
Donc plus aucun doute pour moi désormais, IRL et URL sont plus que jamais identiques. Et ça me rend assez triste. Ça veut dire qu'on a raté un truc quelque part, et qu'au lieu d'inventer, de réinventer un Internet, on fait avec celui-ci et on se trouve des villes fantômes pour évacuer la pression. Moi j'ai envie de vous dire, soit vous assumez votre internet de merde en baissant la tête et en serrant les dents, soit vous faites la révolution maintenant si l'internet d'avant vous manque tant.
On peut applaudir Sylvain, mais on vous rappelle que pour faire la révolution, d'abord, il faut avoir un diplôme et savoir se nourrir.
Savoir se nourrir.
Tout à fait.
C'est très important.
C'est très important. Ah Sylvain, les villes fantômes, dont on en parlait régulièrement sur des FAQ, genre si vous deviez revenir sur un réseau, maintenant est-ce que c'est cool de revenir sur MySpace? Mais là voilà, ces textes, ces articles étaient sur le fait de, comme tu dis Sylvain, de revenir sur des réseaux qui ont été désertés, qui sont toujours fonctionnels. Mais comme il n'y a plus de personne, on peut enfin se remettre à hurler tout et n'importe quoi et ne plus avoir à calculer ce qu'on va dire, ce qu'on va partager, le scoring derrière, le retour, la dopamine chez Radaz, etc. C'est l'internet original. Donc c'était lorsqu'on parlait à peu de personnes qu'on ne connaissait pas.
Et surtout à des personnes qu'on ne connaissait pas.
Ouais. Alors que maintenant, on ne parle pas, mais on déclame à beaucoup de personnes qui nous connaissent de mieux en mieux. Et donc tout est calculé. Même si tu n'es pas à 100% d'accord avec l'essai de base, qui était quand même de dire c'est le bonheur de pouvoir hurler dans un coussin, en fait. Tu vois, c'est, tu peux hurler, personne ne t'entend, c'est cool de te défouler. Et on a vu aussi en parler, juste pour finir là-dessus, des comptes. Il y a un article sur les comptes Instagram, de plus en plus de gens qui créent des comptes Instagram parallèles.
Les Finsta. Ouais.
Les fameux Finstagram qui permettent, pareil, dedans, de se prendre en photo de manière laide, de faire des posts complètement gratuits, de ne rien calculer.
Tout l'inverse de l'Instagram hyper léché qu'on voit.
Mais donc de revenir à ce web un peu weird. C'est aussi pour ça peut-être que tu avais commencé par Tumblr, qui était un des derniers représentants du web un peu not les, pas les cool kids, quoi. Et voilà. Et donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers collègues?
Moi, j'ai juste la nana, donc Fitzgerald, c'est ça?
Oui, Elena Fitzgerald.
Elle prend donc comme réseau déserté, genre un truc, il n'y a plus personne, Snapchat.
Ouais, mais c'est parce que de point de vue, il n'y a plus ses potes, en fait.
Voilà. Ouais, non, mais faut, tu vois, encore une fois, c'est du centrisme total, le journaliste qui est immergé dans son truc avec son
pote. Non, mais elle tout dit... pareil dans nos chroniques.
Non, bah, non, j'essaie quand même d'ouvrir un minimum.
Mais
quand
nous,
même.
On n'est pas journaliste.
Et moi, j'ai pas un diplôme de journaliste. Donc, non, mais non.
Bah alors, Daz.
Mais non, mais
qui est donc cette agressivité?
Faut arrêter. Que tu parles.
Non, mais
qu'elle parle de Viadeo ou même de Mastodon, je veux bien, mais Snapchat, genre, il n'y a plus personne sur Snapchat.
Viadeo, putain.
Non, moi, je comprends son point de vue. C'est qu'encore une fois, il faut pas attendre que soit 100% mort. Pour elle, c'est mort, c'est-à-dire qu'en fait, plus aucun de ses amis sont là. C'est on peut
considérer... Oui, mais c'est pas une ville fantôme, c'est une ville où il y a plus tes potes.
Non, mais c'est
comme si tu déménageais par exemple à Bar-le-Duc.
Oui, en fait, c'est plutôt une colocation fantôme. Elle est en coloc avec tous ses potes et tout le monde s'est barré. Elle se retrouve dans un immeuble avec des gens.
C'est l'hôtel Papa,
des gens inconnus.
Ok.
Alors, oui, fibre.
Déjà, je suis en train de boire un petit bec.
Ah, moi, je suis très content.
Parce que on rappelle, dans un petit bar québécois, après avoir été dans un restaurant italien.
C'est un petit bec. Moi, j'ai un vodka, jus de pomme, sirop d'érable. Alors, déjà, vous savez que l'alcool ne me réussit pas bien depuis notre spécial.
J'ai tellement hâte que sur Slack, demain matin, à 11h30, tu écrives « Je me réveille, je me souviens d'un passage, j'aimerais qu'on l'efface. »
Oui.
Alors, c'est vrai que ça va arriver, mais...
Il a déjà claqué sa chronique.
Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de... Enfin, l'âme, en général, refuse qu'on censure, n'est-ce pas?
Ben oui, j'aime pas qu'on censure.
Voilà.
Donc j'attends le moment où tu vas dire « Je sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve que Laurent Bastide est magnifique ce soir. »
En plus,
il regardera le passage.
Non, la seule chose qui me fait vraiment envie ce soir, c'est un peu la boisson de Sam, parce qu'il y a de la chantilly dedans. Wow. Je crois que c'est un café québécois. Bref.
Bon, alors
donc, reviens sur la chronique. J'ai un truc à dire. Je pense qu'il y a. Tu es passé à côté d'un. C'est très difficile pour moi de me concentrer, mais tu es passé à côté d'un gros truc qui, pourtant, moi, je croyais que c'était le cœur de ta chronique. C'est en fait, il y a des gens qui visitent des villes fantômes, il y a des gens qui visitent des endroits super chelous, des endroits qui visitent des. Comment, Tchernobyl, tu vois. Parce qu'il y a une vraie mélancolie et un romantisme à aller dans des endroits désertés. Où tu
ça,
n'as.
Ça, c'est de l'urbex, quoi.
Voilà, de l'urbex, des friches d'internet.
C'est un peu le propos aussi de dire le côté un peu urbex, effectivement.
Parce que après, toi, tu l'as transformé après en manifeste en disant, mais regardez, si vous n'êtes pas content chez vous, s'il faut changer chez vous au lieu d'aller ailleurs, ce qui est vrai, ça, on va en parler. Mais en vrai, si demain, je lance un vieux MMO textuel où il n'y a plus que trois personnes qui sont des mecs de 45 ans qui jouent trois hobbits dans la comté et il y a tout ce monde qui est complètement vierge,
c'est
tu vois,
ce qu'elle a fait.
Ouais, mais c'est pas Snapchat, tu vois. Elle parle de Snapchat.
Elle parle de Snapchat, la meuf. C'est comme si toi, tu disais aux Tuileries, je suis un peu désolé, mais depuis qu'il n'y a plus mes potes, les Tuileries, c'est désert. Bah non,
mais. Mais si. Mais c'est le fameux un seul être vous manque et le monde mais vous semble dépouter des peuples.
C'est comme si tu recréais un compte sur Twitter, from scratch, et tu disais, oh là là, c'est trop bien, c'est la nostalgie du web d'avant.
Non, parce qu'il y a des gens, vraiment vides. Il y a des MMO qui sont encore entretenus et ils sont vides.
Mais ça, c'est différent, c'est vraiment de l'exploration.
Mais moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Et si tu vas sur Twitter et que t'as un compte de zéro et que t'écris des logorées de texte sur un compte Twitter sans aller chercher de followers et que personne te lit, t'es dans un désert en fait. Alors évidemment, on parle des ghost towns, le charme des ghost towns, mais je suis pas d'accord avec Daz. Faut pas attendre qu'un truc soit 100% déserté pour avoir un sentiment de solitude.
Ah,
et
moi,
urbex, comme
moi quand tu dis désert, je suis au sens propre comme figuré. Pour moi, c'est
soit
désertique.
Sois un peu subtil, Daz.
Mais non, je peux pas. Je suis pas poète. Moi, je suis pas journaliste. J'ai
pas
de journaliste. Diplôme de
poète. Ah, ça sent. T'es pas journaliste.
Mais oui, mais oui.
Et en plus de l'urbex, il y a aussi ce côté, comment dire, exploration de l'histoire. Demain, tu vas sur un site MySpace ou un site GeoCities. Il y aura aucune interaction sociale parce que le mec qui est là, il a oublié qu'il a un site GeoCities depuis longtemps, depuis 10 ans. Mais tu regardes et tu ouvres, tu lis le passé. Tu vois, comme si tu lisais une tablette de pierre avec un romain qui a écrit un truc et tu découvres et voilà. Je trouve c'est.
Toi, t'aimes bien, toi, du coup. Ouais.
Ah ben, il faut avoir le temps. C'est un loisir de riche en temps, on va dire. Mais c'est fantastique. Et aujourd'hui, c'est un peu excitant. Mais alors, dans 30 ans, imaginez, vous êtes. Oh, j'ai retrouvé, pas Space Jam, parce que tout le monde connaît le site de Space Jam. Mais j'ai retrouvé un vieux site en HTML avec des vieilles balises à la con de 1998. Regardez de ce dont il parlait à l'époque.
Mais moi, pour ça, c'est pas exactement ce qu'elle raconte, elle.
Oui,
ça, j'adore. Tu
là, tu parles plus d'archéologie.
Il y a un truc dans ta chronique, c'est que tu dis sur Mastodon, le dernier post c'était il y a 12 heures. Je sais pas, vous vous rappelez quand il y avait les blogs,
ouais.
Le dernier post, ça se trouve, c'était il y a 3 jours.
Ouais, ouais.
Et genre, tu rafraîchissais, tu savais pas quand le prochain allait arriver. Et la temporalité était vraiment celle-là. C'est-à-dire que ouais. T'avais des jours entiers sans rien.
C'est vrai
et en fait, c'était ouais. Pas le désert, c'était juste le rythme à l'époque.
Et les gens
aujourd'hui, si t'as pas un truc ouais, par
mais
minute...
Mais Mastodon, c'est la même présentation que Discord. Et Discord, si t'as pas un post ouais, toutes les 30 secondes, c'est un problème.
Oui, mais c'est aussi que nous, on a accéléré notre temps s'est accéléré. Ouais. La densité bah de non, choses bah par...
C'est si. Que la taille du contenu, elle a fondu aussi. Tu passes d'un post de blog qui était construit
oui, mais tu lis
statues.
Des gros papiers, tu lis aussi des longs papiers en vrai. Et t'en lis pas mal, t'en scannes pas mal.
Il y en a beaucoup plus qu'avant quand même, quelle que soit la plateforme.
En termes de contenu au total, mais... Sur la timeline d'un contact en particulier, tu vois, enfin moi ça me.
Toi tu postes beaucoup plus qu'avant, enfin franchement.
En tweet, oui, ouais. Mais ça me surprend pas d'avoir plus de tweets parce que c'est beaucoup plus facile, tu tweets comme tu respires, tu vois. Tu balances le truc.
Justement, maintenant tu tweets comme tu respires.
Non, mais depuis combien? Alors qu'à... non, mais en fait parce qu'on compare le blog et le micro-blogging, du coup pour ouais. Moi un blog qui était pas alimenté pendant une semaine, ça me surprenait pas parce que tu pars du principe que quand t'as un post, c'est un truc construit, élaboré, réfléchi et tu vois avec un mur de texte. Alors qu'un compte
oui,
Twitter.
Tu vois bien aujourd'hui comment les youtubeurs ils font une vidéo par jour et qu'ils prennent des monteurs en Asie pour tu vois
pour être sur plusieurs fuseaux horaires.
Ouais. C'est vrai que t'as
non,
aussi
mais
ça.
La,
ouais.
La comparaison c'est surtout de se rappeler de Twitter au début. Où on connaissait personne et on pouvait raconter n'importe quoi. Et souvent, on était sous pseudo. On était tous sous pseudo.
Peut-on tout dire?
Peut-on tout dire? On peut perdre. Non, et qu'aujourd'hui, il y a absolument tout le monde sur Internet. Et c'est ça qui fait la diff. C'est que des endroits qui sont encore inexplorés où vraiment
monde.
On peut trouver des gens qui ne sont pas nos proches, etc.
Il y a une différence entre le Sylvain Palais qui avait 700 followers, dont plein de potes,
justement.
Au Sylvain Palais qui a 4000 followers, dont n'importe qui.
Plein d'inconnus.
Et effectivement, c'est aussi le problème de Fitzgerald, peut-être. Peut-être la fille, elle a 11 000 followers. Et effectivement, quand elle dit quelque chose, il y a forcément 50 haters de son truc. Et ça, c'est le problème de...
C'était pas une histoire de haters. C'était pas une histoire de haters. C'était une histoire de voir
tout
calculer.
De performance.
De performance.
Je pense que c'était pas la réaction des autres. C'était sa propre réaction par rapport à ça.
En fait, il faut bien dire, il y a deux choses. Il y a deux choses dans la chronique. C'est les ghost towns du web, les villes fantômes du web, et le plaisir et le charme de revenir. Donc il y a quand même deux choses.
Ouais.
C'est pas exactement juste la mise en scène de soi, etc. C'est tu peux effectivement déjà avoir un compte Twitter parallèle comme beaucoup de gens ont un compte maintenant les fameux Finstagram dont on parle parallèle. Et donc t'es dans une zone peuplée, mais tu cries dans le vide quand même parce que personne te suit. Ou alors tu peux aller chercher les deux et avoir la nostalgie dont parlait Fibre, qui est un peu cette urbex.
Qui est l'archéologie.
Une sorte d'archéologie un peu de vieilles plateformes et de retrouver les codes des vieilles plateformes. Et en plus, devenir actif pour très peu de monde, pour une âme qui passe à ce moment-là et de, du coup pouvoir, comme elle dit, hurler dans le désert ou hurler dans un coussin et retrouver ce web défouloir et peu travailler.
Moi, je suis curieux quand ça vous arrive de vous censurer sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Oui.
Par rapport au travail, par rapport à des trucs, il peut y avoir des clients, des choses comme ça.
Des tweets pas circuités déjà.
Moi, j'y pense beaucoup. Est-ce que vous avez un refuge dans lequel vous criez ça? Est-ce que vous faites comme les Grecs, vous faites un trou dans la terre, vous le criez, vous le refermez?
Ah, pour sur des pour endroits genre, comme ça. Tu postes ce que tu peux pas tweeter.
Un truc anonyme, un truc sous pseudo.
Bah peut-être le Slack de 404 hein, où on balance des trucs dedans.
Le Discord aussi un peu.
Ouais, parce que.
Non, pas dans le Discord, moi.
Non,
jamais
on met
dans le Discord.
Pas tout dans le Slack de 404.
Mais des trucs que sur un compte alternatif.
Mais il y a un truc qu'il faut voir, c'est que le système, l'architecture de Twitter veut que tu rentres dans ce système pervers, même si tu ne le veux pas. Il y a beaucoup de gens qui effectivement aspirent à cette liberté et ils ouvrent ce qu'ils appellent un compte privé. Ouais. Ils disent, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils disent « Hey mes followers, j'ai ouvert un compte privé si ça vous intéresse. » Quel est l'intérêt de l'ouvrir si tu dis ça, mec? Ça m'intéresse pas du tout.
Déjà dans la logique.
Voilà, mais ils disent tout le temps ça. Et ils ont leur compte privé où ils disent peut-être des trucs. Enfin, en fait, ils ont une autre ligne éditoriale, mais ils sont à la recherche du même succès.
Oui, alors là, il ne faut pas confondre avoir un compte parallèle. Et encore une fois, aller hurler dans le vide et parler à deux inconnus et ne pas chercher à parler à plus d'inconnus.
Bah si, c'est pareil en fait.
Non, tu peux avoir un compte parallèle qui est un compte qui va avoir du succès. C'est pas parce que t'as un compte parallèle que t'as un compte. Ouais. Tu vois ce que
pour moi, le compte parallèle, c'est forcément un compte défouloir. Mais ouais, t'as raison. Il y a des comptes avec des lignes éditoriales différentes.
Oui, c'est ça. Je sais pas.
Oui, pro et exactement. Perso.
Alors ici, c'est Sylvain Palais. Pour la Coupe du Monde, c'est Sylvain Palais underscore foot.
Pour les tweets en anglais, c'est Sylvain Palais underscore
N. Mandarin, des chaînes en anglais.
Est-ce que vous avez des réseaux que vous avez du mal à abandonner, sur lesquels vous êtes resté justement parce qu'il y a cette sorte de tranquillité de la faillite, en fait.
J'ai envie de dire Foursquare, mais
ouais. Ah, c'est vrai qu'à un moment donné
t'es encore sur Foursquare,
enfin Swarm.
Eh bien, figurez-vous que je ne suis plus sur, j'utilise Foursquare pour trouver encore des lieux, des places, des trucs comme ça.
Mais c'est largué, mais, non,
Swarm avait un problème avec Android et défonçait l'OS d'Android, défonçait la batterie et faisait friser l'OS, donc j'ai désinstallé. Je sais pas s'ils ont patché depuis, mais je l'ai pas réinstallé.
Est-ce que vous avez des dinosaures dans le placard, des endroits à l'ancienne où vous allez toujours aujourd'hui?
Un jeu multijoueur sur Battle.net, ouais, Age of Empire 2.
Moi, je dois avoir un Tumblr dans un coin.
Un Tumblr quand même. Ouais, mais tu continues des fois à publier tout juste pour te balader?
Non, mais des fois, il y a des fois où je me suis baladé. Là, ça fait vraiment longtemps. Je pense que ça fait 6 mois, mais il y a des fois où j'avais envie de reposter. Ah, il est bien ce gif.
Et du coup, mais qu'est-ce qui t'a empêché de poster? Tu t'es dit ça sert à rien.
J'ai aucun public, quoi. C'est vraiment.
Donc voilà.
Tu cherches le public. Alors c'est pas un défouloir, non?
Bah c'est ça. Enfin, tu vois, tu te dis genre, t'es habitué, quoi, à force.
Est-ce qu'il y a encore une gratuité à publier pour publier, et publier même plus pour partager, juste publier pour publier de manière totalement gratuite, ou est-ce que c'est très dur aujourd'hui?
Mais avant, je me rappelle de la petite magie quand tu publiais, tu disais ouh, il va se passer des trucs de fou. Maintenant, c'est vraiment, t'es blasé, tu prévois.
Non, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez publier, vous retourner et partir parce que vous avez juste besoin de publier et de ne pas recevoir de feedback?
Je le fais sur Pinterest, mais c'est parce que je ne le considère pas comme un réseau social, mais comme un truc pour sauvegarder.
On sent quand même une grosse expérience perso qui parle là.
Non,
tu peux tout nous dire. Non, moi pareil. En fait, quand j'écris un truc, j'espère qu'il va être lu. Après, moi, j'écris, à chaque fois, je prends les mauvaises plateformes pour faire les... Enfin, j'ai des usages de merde sur des plateformes qui n'ont rien à voir. Donc, moi, je poste des billets de blog sur Tumblr, du coup, personne ne les lit, mais...
Mais après, si, les links sur Twitter.
Si, moi, je te lis.
Mais voilà, enfin, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de gratuité, maintenant. C'est juste publier pour le besoin de publier, comme tu avais un journal intime que pour toi-même.
Mais elle a déjà existé, cette gratuité, de publier juste pour publier?
Au tout début, franchement, tu lances ton blog,
en fait.
Là, tu mets un billet et tu fais genre...
Non, mais par exemple, quand je vous envoie des liens sur Slack et je les envoie nulle part ailleurs, je me dis pas, ah bah fais chier, j'ai envoyé un lien sur Slack,
mais on est
25 sur Slack.
Non, mais t'as un public de 20 personnes.
Je me dis, bah attends,
quoi.
Je vais l'envoyer à plus de monde, je suis pas dans la performance.
Ouais.
Par exemple, non, je sais pas. Vous cherchez forcément le maximum de performance ou
non.
Ou vous pouvez un peu hurler dans le vide.
C'est une cible, en fait.
Ouais.
Non, mais moi, j'adore envoyer des mails à une personne, je sais que c'est le bon lien pour cette personne, tu vois, et ça me suffit déjà.
Voilà,
ça c'est beau.
Curation tailor-made.
Ouais.
Bravo.
Vous n'êtes jamais resté sur des réseaux qui sont devenus des réseaux très privés parce que vous et quelques personnes sont restés les derniers survivants?
Moi, j'ai pas eu l'occasion.
Moi, j'avais une messagerie avec mon ex. En fait, il n'y avait plus que nous qui l'utilisions et ça lui donnait le charme que c'était notre messagerie, en fait.
Ah, moi, j'ai un Telegram pour une personne.
Ah, bah voilà.
Et j'ai WhatsApp aussi pour une seule personne.
T'as WhatsApp pour une personne et t'as Telegram pour une seule personne.
Bah non, mais parce que quand j'ai une notification Telegram, je sais exactement qui c'est qui me l'envoie. Et je sais que je dois pas, par exemple, l'ouvrir en public. Par exemple. Non, mais voilà.
Et ça, c'est WhatsApp. Ta meuf, parce que c'est pas ta meuf le saura.
Non. Mais, et j'ai aussi un compte Tumblr pour le porno, par exemple.
Ouais.
Dans lequel je retweet comme un ouf, mais personne peut accéder à ce compte parce que tu c'est repostes. Du Pinterest.
Ah oui, en fait, ça marque pas.
Ah oui, c'est pour toi, ouais.
Oui, c'est plutôt marque comme outil. Non, donc.
Et t'as des gens qui te suivent?
Et sinon, j'ai personne qui me suit, mais je suis même inaccessible. Mais il y a.
Oui, mais là, encore une fois, c'est pas parce que t'as besoin de te défouler.
Sinon, moi, il y a un ancien réseau social que j'adorais, qui est très difficile à accéder, c'est Usenet.
Voilà. Oui.
Les newsgroups. J'aimais beaucoup ça, je les utilisais. Et aujourd'hui, c'est une mine d'or, c'est un musée fantastique.
Personne n'est retourné sur un Usenet ou un IRC ou un truc comme ça?
Parfois, je vais chercher des ressources sur Usenet et il y a des posts sur Usenet de ouf. C'est-à-dire que la première critique ever online du Retour du Jedi, elle est sur Usenet. Et t'as un mec qui dit, hier je suis allé voir un film, c'était le Retour de Jedi, c'était pas mal, voilà ce que j'ai vu. Enfin, quand tu vois ça, tu dis, mais c'est ouf, tu vois.
Ah, mais là, tu retournes encore dans le côté archéologie quand même.
Ouais, je sais, mais.
C'est pas un défouloir, là.
Bah, non, mais il y a aussi un défouloir. Et les pires trolls sont sur Usenet. Les pires trucs dégueulasses sont sur
Usenet. Après, on a aussi tous fait partie de forums, plus ou moins intimes, avec très peu de personnes dessus, où on pouvait se raconter des choses, etc. Et c'est des gens qui sont devenus des copains, mais qui l'étaient pas à la base.
Oui, mais
j'ai essayé de retourner sur des trucs comme ça, mais ils ont cramé, quoi.
Mais tu allais quand même sur ces forums pour rencontrer. Enfin.
Oui, il y avait toujours une cible visée.
J'ai l'impression que là, on parle d'aller vraiment
c'est
sur une plateforme morte juste pour retrouver le côté de publier gratuitement comme si on avait un journal intime que personne ne lira et on a juste besoin d'écrire.
Ça, c'est vraiment de la psychanalyse ou de l'écriture automatique.
Non, c'est pas l'écriture. Mais non, avoir un journal intime, c'est pas forcément l'écriture automatique.
Mais en tout cas, ça t'aide. Enfin, ouais, c'est. C'est un équilibre vraiment pour toi.
C'est peut-être un équilibre psychologique, mais en tout cas, donc aucun de nous cinq ici
non, moi je fais pas
n'arrive à écrire ou à publier ou à partager gratuitement, sans savoir qui va lire, en s'en foutant, mais juste pour le plaisir de pouvoir hurler un peu dans le vide sans être jugé, sans avoir quelqu'un.
Non, mais par contre, j'ai un mini exemple qui est quand même récent. Moi, je Twitch. Et quand tu Twitch comme un pecno avec une connexion pourrie sur des jeux hyper obscurs,
sur du PHP,
sur du code, t'as 5 personnes qui viennent, mais c'est les 5 mêmes. C'est-à-dire que même parfois on s'est dit, est-ce qu'on va pas faire un camp à 5, tu vois? On veut voir les codes et tout. Donc il y a quand même une communauté. Je suis resté peut-être 300 heures avec eux et c'était super cool.
Fibre, il me fait penser aux mecs qui sont sur une île déserte et puis ils trouvent des balles de tennis. Ils leur mettent des visages. Il fait, ah, t'es revenu, Edouard. Oh bah t'es là, Natacha.
Wilson. Comment ça va, Wilson?
Voilà. Non, mais en vrai, c'est super libérateur et souvent. En fait, je stream uniquement pour le côté social. C'est-à-dire, je stream pas pour jouer, je stream pour discuter avec mes 6 potes. Et c'est super cool.
Non, mais ce qui est marrant dans l'article initial de la nana, là, pardon, excuse-moi, c'est que, en fait, elle fait bien le distinguo entre l'image qu'elle souhaite renvoyer aux autres et ce qu'elle veut faire à côté pour, soi-disant, se défouler elle-même.
Ouais.
Et en fait, moi, j'étais persuadé, jusqu'à il y a très peu de temps, que
les gens normaux.
Non, mais que j'étais genre normal, c'est-à-dire que des fois tu fais une photo un petit peu taffée et puis la fois d'après tu photographies une banane et tu t'en bats les couilles en fait. Et les gens réussissent quand même à percevoir une ligne éditoriale là où toi tu penses qu'il n'y en a pas. Et donc j'ai posté
une photo.
Parce que
tout est ligne éditoriale aujourd'hui.
Mais j'ai posté une photo sur Instagram, tu vois, avec une légende normale et tous les commentaires c'est putain, Daz il poste au premier degré. J'ai envie de dire, mais niquez vos mères, je poste comme je veux. Enfin, comment ça? Ça veut dire, le compte Instagram de Daz, c'est que du second degré tout le temps. Mais vous avez serré ou quoi? À quel moment je fais que des blagues, tu vois? Enfin.
Bah, souvent.
Mais non! Non, mais tu vois, et donc, en fait, tu te rends compte que finalement, ta ligne éditoriale, c'est pas celle que toi, t'as l'impression d'impulser, c'est celle que les autres perçoivent. Et finalement.
Il y a aussi une éditoriale dont tu te rends pas compte, mais t'as une ligne éditoriale sans t'en rendre compte.
Et donc, oui, mais. Dans 150 ans, quand on étudiera le compte Instagram de Daz en première L, Les profs diront, alors, qu'est-ce qu'on voit dans la ligne éditoriale de Taz?
Bah, c'est du second degré, madame, tout le temps et tout.
Mais parfois pas assumé.
Mais parfois c'est pas assumé du tout.
Non, mais c'est chelou, j'avais vraiment, sur Instagram, autant sur Twitter, effectivement, tu piques un petit peu, autant sur Instagram, t'as pas 36 millions de façons de faire du décalage, tu vois, donc tu prends une photo et tu la légendes. Et les gens m'ont dit, ah ouais, non, c'est marrant, je cherchais le sarcasme, mais en fait, je l'ai pas trouvé. Bah ouais, il y en avait pas, j'ai juste, j'aime bien les bâtiments, tu vois.
J'aime bien les bâtiments.
Non, mais c'est chelou, enfin. Voilà, donc en fait pour moi le côté défouloir finalement, ben, c'est pas la peine d'aller le faire ailleurs, tu peux le faire. Les gens de toute façon feront un distinguo entre ça c'est de la ventilation, ça c'est sa ligne éditoriale.
Encore une fois tu vas poster pour plein de gens, même si t'as. En fait c'est les deux trucs vraiment, c'est les deux trucs en même temps on va dire. Ouais. C'est, tu peux ne pas avoir de l'éditorial mais t'es quand même sur la nuit des Champs-Élysées du
Oui mais
du
le, côté,
social,
le côté pourquoi est-ce qu'il faut absolument crier dans un coussin quand il n'y a personne autour du coussin? Est-ce que tu peux pas juste crier dans ton coussin sur ton truc normal et ce truc-là, c'était un cri dans un coussin. L'instant d'après, c'est autre chose parce que j'ai changé. Enfin, tu vois, t'as un état d'esprit qui est changeant.
Oui, tu peux faire du shit. Tu peux faire du shit post.
Bah oui, en plein milieu d'un truc qui, tu vois. Enfin, pour moi, il y a pas de notion de oh là là, attention, ce compte est sérieux. Faut pas que je fasse du shit posting sur mon compte sérieux quand même, tu vois. Ben non, c'est toi. Donc tu fais ce que tu veux.
C'est un peu comme ces influenceuses qui pètent un cap sur Instagram et qui se mettent à poster des trucs moches. Enfin, qui font du Finsta et de l'Insta sur le même compte, quoi.
Mais en fait, pour moi, il y a pas besoin de faire un Finsta. Tu le fais sur ton compte. Et...
Ouais, c'est ça.
Soit toi, t'es toujours le bon sens, Daz.
Non, c'est pas le bon sens. Déjà, c'est. Un, je comprends rien au code Finsta, pas Finsta, machin. Deux, je suis trop
fier. T'as la Yes Life et la Beautiful Life d'un côté, et puis après, t'as la vraie vie de l'autre côté.
Le message de Dalle, c'est soyez vous-même.
Soyez vous-même.
Soyez vous-même. Venez comme vous êtes.
Non, mais en fait, c'est soyez vous-même.
Je comprends pas, moi, je suis.
Non, mais c'est pas ça, c'est soyez vous-même, parce que de toute façon, qui que vous pensiez que vous êtes, les gens ne le percevront pas de la manière dont vous avez cru le poster. Donc ça sert à rien de se faire chier.
Deviens ce que tu es ou pas?
Soit ce que tu deviens.
Soit ce que tu deviens. C'est bon, on s'arrête là-dessus. Allez, on attaque tout de suite la deuxième FAQ. En attendant, sur le forum, on attendra de savoir si vous avez des petits réseaux cimetières, des petits réseaux fantômes sur lesquels vous aimez aller vous rendre des fois seul le soir.
FAQ.
Une question d'actualité de notre ami Tanuki. Qui nous demande, donc le fameux Google s'attaque au podcast et YouTube s'attaque à la musique sérieusement. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement les amis? Donc on vous rappelle, ça y est, il y a une application podcast de chez Google sur Android, C'est la fiesta pour beaucoup de podcasts parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs qui vont arriver plus naturellement. Et l'autre côté, effectivement, après avoir tourné avec YouTube Red, Google Music, machin, Google a dit fuck, on fait une offre de tueur et ils ont fait donc le YouTube, je sais plus comment ça s'appelle.
YouTube Music.
YouTube Music. YouTube Music qui est une solution extrêmement séduisante puisque c'est le catalogue classique de tous les concurrents plus tout ce qu'il y a sur YouTube, donc tout ce qui compte de mix, de cover, de live qui peut passer en audio dans votre téléphone. Qui a un avis sur ces deux offres d'Az?
Ouais, alors Google Podcast, c'est super cool, surtout quand on sait que une majorité des auditeurs de 404 et de tout ce que.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Les qualités sont pour plus de la moitié sur Android, ça veut dire qu'ils vont vraiment y arriver naturellement, donc ça va être encore, enfin, je pense que la part d'Android va encore exploser les charts. Et YouTube Music, je serai Spotify et Deezer, je m'inquiéterai énormément. Voilà, parce que c'est l'endroit où il y a toute la musique du monde, c'est YouTube, depuis toujours. Ouais.
Quelqu'un d'autre ?
Une réponse de FAQ très, très journalisme web. Très journalisme web. Ouais. Je m'inquiéterais beaucoup. Et... passe à la suite.
C'est la touche 0 si j'étais eu, mon gars. Eh oui.
Moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé tout ce temps, quoi.
Ouais.
Avec Google Music, ce truc. Enfin, tu vois. Et les podcasts, machin. Pourquoi ils ont laissé Apple prendre tant d'avance ? Je comprends pas pourquoi ils arrivent maintenant, en fait.
D'accord, ok.
Bon. Je pense que ça va fonctionner et tout, hein. Mais,
avec les assistants vocaux Google, en plus.
Ouais.
Tu vois, boum.
Mélissa, qui a un avis expert sur le sujet.
Mais moi, j'attends que ça, les mecs.
Ah bah oui.
Parce que là, on était à Copenhague au salon du podcast, là, au Radio Days Podcast Day.
Mélissa, elle fait tout ce que nous, on fait jamais.
Et là, les mecs, ils disaient, non, mais attendez, il y a le truc de Google qui sort. C'était la folie, quoi. C'était vraiment, tout le monde était là, oh mon dieu, Google, on va tous doubler nos audiences, ça va être la folie.
Est-ce que t'as une cible moyenne d'audience en plus qui est visée ou une estimation, un truc?
T'as un petit PowerPoint à nous montrer ou...
Non, mais notre audience de podcast, elle est à 50% Apple Podcast et il y a genre 30% Podcast Addict.
Ouais.
Parce que c'est la meilleure appli Android. Et du coup là on se dit peut-être qu'Apple Podcast va, tu vois, sera plus majoritaire. Et là ça serait
vous êtes
folie.
À 50% Apple sur vos...
Ben ouais.
Et nous, combien, je sais pas.
Ah non, nous Apple c'est donc sur iPhone et via Apple Podcast c'est peut-être 25% quoi.
Ah ouais.
30% max en fait, on a 70% d'Android aussi.
On a le public Studio 404, tu vois.
Bah oui, ça m'étonne pas que vous soyez plus sur iPhone, je sais pas.
D'accord, très bien. Donc contente toi Mélissa.
Ah bah heureuse.
Et YouTube Music?
J'attends de voir. Est-ce que l'user expérience est intéressante? Je pense que oui, elle le sera.
Je ne sais pas. Fibre.
Google Podcast, il y a 3 ans, ils l'ont annoncé. Et quasiment toutes les semaines, j'essaie d'inscrire sur le 404. Et un jour, au bout d'un an, je suis devenu fou.
Mais oui,
j'arrête.
Ça devait être intégré dans Google Music.
J'en pouvais plus.
Sauf que Google Music, ils l'ont laissé tomber.
Du coup, aujourd'hui, j'ai des petits réflexes nauséeux quand j'en. Et sinon, pour YouTube Music, je suis persuadé que c'est le Saint Graal que j'attends depuis toujours. À tel point que ça m'a valu une dispute de couple hier en disant on arrête Spotify Family.
C'est vrai?
Ouais, complètement. Ça a été très très dur. Et là, je vais encore me refaire engueuler parce qu'on ne doit pas parler d'une dispute de couple dans le 404. Donc, je suis désolé. Et je vais encore. Mais heureusement, j'ai une grande maison maintenant.
Est-ce que tu peux aller dans une pièce vide et hurler dedans?
Non, mais j'ai une pièce vide où il y aura un lit où je pourrais dormir seul, évidemment, puisque ça
fait mon grand chute. Voilà. Tu t'envoies une pièce, c'est juste un coussin au milieu de la pièce et tu peux hurler dans ton coussin comme ça.
Mais tout ça pour vous dire que
des murs maltonnés comme dans les asiles.
Tout ça pour vous dire que j'adore Spotify, mais toute la journée, je demande à mon Google Assistant lance ça sur l'énorme télé. Et c'est de la musique. Et en fait, j'écoute de la musique via la télé, via YouTube Music. J'attends que ça. Ça va être trop bien. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que non seulement il y a tous les albums, y compris de petits malins qui uploadent ici et là, mais en plus il y a des covers de ouf, il y a des variations de ouf, il y a tout ce qu'on veut. Ça va être génialissime. J'adore.
J'avoue que si je trouve un outil pour exporter mes playlists Spotify sur YouTube Music, j'y vais.
Une playlist de toutes les covers de Africa par Toto.
Sachant en plus que
ça pourrait me faire basculer ça.
Truc ça final, c'est qu'on n'aura plus de pub sur YouTube. En plus, quand t'es abonné à YouTube Music, tu n'as plus aucune pré-roll sur YouTube.
Ah,
et voilà. Ça joue, hein.
J'entends des youtubeurs crier au loin.
Tu lances la vidéo, il prend juste l'audio. Et c'est quoi le principe de fonctionnement de ce truc?
Tu peux prendre n'importe quelle vidéo et tu peux en extraire que l'audio si tu veux, même en hors ligne sur ton téléphone. Tu peux même avoir les vidéos hors ligne, je crois.
Si t'es audiophile, ça pose problème. Si t'as des câbles en or, tu vois, à 8000
balles. De toute façon, quand t'as des câbles en or, tu vas pas sur des solutions de MP3 en streaming de toute façon.
Et surtout, on va avoir la lecture en arrière-plan.
Oui, aussi, ça c'est fort.
Et ça fait longtemps qu'on l'attend.
Oui, ça c'est très très bien. Eh bien écoutez, l'équipe de 404 est extrêmement extrêmement chaude sur l'arrivée de Google sur ces deux fronts. Voilà Tanuki, et on va tout de suite passer à une chronique mystérieuse car c'est une enquête de Mélissa Bono.
Sujet numéro 3.
Vous n'avez rien compris à un post sur Internet. Bonne nouvelle, vous avez gagné une petite enquête.
Ah, des enquêtes sur Internet, Mélissa, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Faudrait faire une petite musique sombre. C'est effectivement une chronique un peu particulière que je fais aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est ?
Car tous les jours sur Internet, il m'arrive de ne pas comprendre.
Quoi ?
Comment on m'aurait trompé ? Que ce soit un post Facebook, un billet Medium un peu trop marketing inspirational, un tweet coffe-feu. Même des photos de Beyoncé et Jay-Z devant la Joconde. Je me suis dit, mais il avait pas déjà fait ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé ce week-end. Et après, je vais, ils ont sorti un clip. En général, je les laisse passer parce que j'ai un peu la flemme de comprendre et j'ai pas vraiment le temps. Quand j'étais à Slate, je demandais aux deux journalistes les plus connectés de la rédac, Vincent Manilev, spécialiste S-YouTube, et Grégor Brandy, spécialiste S-4chan, et ils m'expliquaient ce que j'avais manqué. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter et de me dire, ok, cette fois, je m'arrête, je creuse. Je me suis inspirée pour ça, j'avoue, de l'excellent podcast américain Reply All qui régulièrement décrypte un tweet incompréhensible et ça devient souvent une enquête hyper passionnante.
Ah, ça c'est cool.
Donc ça faisait une semaine que je cherchais ma perle rare et j'ai fini par trouver. Pour vous expliquer un peu comment on bascule un peu dans une enquête sur Internet, c'est ce tweet voilà, que vous scannez, vous tiquez un peu, mais vous continuez à scroller.
J'avoue
c'est...
que ça nous est tous arrivé.
C'est pas l'énième tweet de Donald Trump, bah, vous savez ce que c'est Donald Trump, ni les horreurs de Christine Boudin. Laissez-moi vous lire ce tweet.
Attention.
Dieu merci, on peut bloquer les gens sur Insta, PSK, sinon je serais déjà partie de ce réseau social à cause de Stony, China Girl, Dox, Charlito le Vrai, etc. SRX, je fais une overdose là, même Denatora, j'en peux plus de lui, c'est déhanché, on les connaît depuis 2009.
Facile, c'est un gang de manouches.
Ce tweet a 1009 retweets et 646 j'aime.
Ah oui, quand même.
Qu'est-ce que c'est que ce tweet ?
J'ai rien
qu'est-ce compris. Que c'est que tous ces noms ?
SRX,
déjà,
qu'est-ce que c'est ?
J'ai mis 10 secondes à comprendre PSK.
What does it mean ?
Parce que, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, et le SRX, sérieux.
Ah donc PSK c'est parce que.
Ouais.
Oui.
Mais j'ai un peu buté, tu vois. Et SRX j'ai buté encore, tu vois. J'ai, ok. Donc il était 1h du matin et il y avait ce hashtag Stony en trending topics. Et là je me dis mais qui est Stony?
Donc là t'as Stony en trending topics, t'as ce tweet incompréhensible.
Stony ça s'écrit S-T-O-N-Y, je me rends compte en le disant que ça se trouve vous comprenez Estonie comme le pays.
Mais qu'est-ce que l'Estonie? Encore une enquête.
Et en remontant ma timeline, je continue mon enquête dans les recoins de Twitter voilà, que j'avais jamais visité avant. Je lis d'autres messages écrits toujours en langage texto avec beaucoup beaucoup d'emojis. Et je tombe sur cet autre tweet qui dit « Nous avons blessé enfants des gens Astang Stony ». Je pense qu'il y a une coquille sur le hashtag, vous aurez compris.
Non, mais dans tout le tweet, non.
Je crois que le tweet est une coquille géante.
Je vous mettrai les liens, vous voyez pas du tout toutes les coquilles, c'est assez ouf. Et là, en fait, il y a une photo, il y a une capture d'écran d'un compte Instagram d'un certain stony.sp. Et je vous lis la légende, attention. Je suis en guerre avec personne, je suis loin d'être les meilleurs danseurs, mais j'essaye juste de m'en sortir en faisant ce que j'aime et j'évolue à mon rythme plutôt que de vendre de la drogue ou aller cambrioler ou quoi que ce soit d'autre.
Bon, c'est un dealer devenu danseur, quoi.
Je veux juste rendre ma maman fière et réussir ma vie, mais vous êtes là à mettre des bâtons dans les roues sans raison. Je réfléchis, je me suis dit, mais Stony, t'es fou. Tu vas arrêter tes passions pour des gens qui font pas mieux que toi. Vous êtes les premiers à dire, c'est Dieu qui donne. Mais quand il donne aux autres, vous êtes les premiers à critiquer. Enfin bref, je vous épargne tout le truc, mais
quel
genre
indice dans ton enquête.
Ça fait
le dernier mot de la victime.
Ça fait 15 lignes. Et en fait, ça... mais je trouve donc, ça c'est le compte Instagram de Stony. Donc je finis par comprendre, voilà, je vois le compte Instagram de Stony. Alors, donc je vais sur le compte Instagram de Stony.
Okay.
Stony SP. mais aucune trace de ce post que donc je viens de lire là.
Ah bon,
qui
a
l'air d'annoncer
depuis.
Qu'il a quitté Instagram mais qu'il est revenu. Donc je regarde son compte, il y a 48 publications, 295 000 abonnés, je me dis c'est beaucoup pour 48 publications.
Ah ouais.
Et la bio dit influent 3 petits points. Sans le T, influent. Non, je suis différent. Emoji qui fait genre, il comprend pas. Après, il y a un emoji qui dit Trieur France, qui doit être son agent, je pense. Et après, il y a un petit emoji qui danse, qui dit NWE Official Dancer.
Voilà. D'accord.
Sur le compte Instagram, il y a que des selfies, que des vidéos de danse où il est seul, où il est à plusieurs. Là, je comprends donc que Stony Pérez, parce qu'il a écrit son nom aussi,
est
danseur.
SP, ça veut dire Pérez.
SP, ça veut dire.
Et il danse bien, moi, ou pas?
Ça veut dire Spérez.
Bah, écoute, il y a des vidéos où il danse bien, il est très fluide dans ses mouvements. Je vous invite à aller sur son compte. Donc, je comprends que le mec est danseur, il a l'air d'être assez jeune.
L'enquête avance, on a trouvé la victime.
Voilà. Et il y a aussi quelques posts un peu émo avec seulement du texte noir sur blanc qui dit soit tu réussis et beaucoup te détesteront, soit tu échoues et tu auras quelques amis.
Oh,
c'est beau, c'est
superbe. Superbe.
C'est ça. Et des photos de lui où il regarde ses muscles, des photos de lui où il se colle un peu aux fesses d'une jeune femme qui danse. Mais en fait, qu'est-ce que Stony arrive, pourquoi il arrive dans les trending topics?
Ben
je
oui.
comprends pas. Pourquoi?
On sait maintenant que c'est un danseur
voilà.
motivational. Un motivational dancer. Ouais.
Et pourquoi il y avait cette légende où on croyait qu'il avait craqué? Là, je tombe sur un autre tweet. Avec la même photo, mais qui dit c'était sûr Stony il allait revenir, c'était que du bluff, on devra encore le supporter. J'ai tout supprimé pour un nouveau départ, ça c'est entre quotes, alors qu'il fera toujours les mêmes pas de danse avec ses AirPods.
Ah, on revient aux AirPods.
Ah, voilà.
On est en train de niquer dans le,
en fait, c'est un
dans le 404 verse là. On revient aux early adopters du malaise.
Donc ça c'est la même capture d'écran, mais il y a 328 RT sur ce tweet. Je comprends toujours pas.
C'est peut-être un early dancer du
mais
malaise.
Mais donc ce post semble
le DM.
Dire.
Le DM.
Merci.
Ce post semble dire qu'il est donc parti à un moment, mais parce que les internautes ont été violents contre lui.
Mais ça ressemble à la première thèse du crime en tout cas.
C'est ça. Donc là, je vais sur Twitter et j'essaye de lire ce qui s'est dit sur Stony, pas juste les posts de Stony. Et donc là, je vous fais un petit medley de toutes les citations. Seigneur, pourquoi tu nous as enlevé XXXTentacion ? On t'aurait donné Stony SP gratos. Autre tweet. La vie était plus belle quand on pouvait se moquer de Stony. Emoji qui pleure.
Oh les bâtards.
J'ai écrit hashtag Stony sur ma barre de recherche. Je suis dead. Genre tout le monde déteste Stony le pauvre. Vraiment, vous voyez pas les fautes, c'est ouf, quoi. Imagine,
non,
t'arrives dans ta salle, t'es grave confiante pour le battre, etc. Et le surveillant de la salle, c'est Stony.
Excellent, top tweet.
J'aime pas ce que Stony il fait, mais vous l'avez assassiné ces derniers jours. Le gars a rien demandé, il fait ses trucs de son côté, son argent, pendant que la plupart vous êtes au chômage en train de critiquer sur Twitter. Remettez-vous en question, MDR.
Leave Stony alone.
Il y a un autre tout qui dit, c'est qui Stony? Je vois que, il y a que les Renois qui en parlent.
Voilà.
Trop de Renois qui maintenant commencent à insulter Stony et toute cette fausse danse afro. Donc là, à ce point de mon enquête.
Donc là, c'est que des citations que t'as trouvées
voilà,
sur.
Voilà, je comprends pas trop où je suis tombée, mais je comprends que donc le mec s'est pris une vague de tweets pendant un certain nombre de jours. Donc je remonte vraiment des dizaines de tweets et je vois plein de gens qui paniquent en fait parce qu'à un moment, apparemment, donc il a cédé. Et donc je lis ce tweet, waouh, c'est moi où Stony s'est mis en position victime suite à l'avalanche qui s'est prise sur Twitter, il a tout supprimé ses posts. Quand Stony il sera dans la saison 3 de 13 Reasons Why, il faudra s'assumer. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est une série où il y a quelqu'un qui se suicide. Voilà. Donc là, j'élabore mes premières théories. Donc c'est, en fait, c'est juste une campagne de harcèlement pour ouais. faire un CD à un danseur qui a l'air d'être influent sur Instagram.
Ça se tient comme théorie.
Ça se tient là.
C'est ça.
Moi j'adhère à ça.
Donc il y en a qui continuent à faire leur petite enquête. Stony il a désactivé son compte Instagram, ça prouve à quel point Twitter c'est un réseau de sorciers. Vous avez réussi à faire craquer l'enfant d'autrui.
C'est un truc de Renoir ça, de dire ça en vrai.
Je continue.
Fait craquer l'enfant d'autrui.
Sorcier.
Ça veut dire quoi faire craquer l'enfant d'autrui?
Non mais il y a que des inventions, c'est magnifique pour la langue française. Je comprends pas pourquoi vous vous acharnez sur Stony. Oui, on le voit beaucoup sur Insta, mais il fait des trucs bien, il kiffe dans ses bas. Laissez-le. Parler plutôt des petites gamines de 14-15 ans qui ont des 100K en faisant des vieux musicalis sans originalité.
Vrai.
J'en vois partout sur Instagram.
Ça, c'est vrai.
Donc là, c'est le moment où je vais faire appel à l'outil qui me déçoit jamais dans ce genre de phase d'enquête sur Internet. Je commence une recherche Google.
Ah bah oui.
Je tape Stony. Et là, Google m'a déçu.
Comment ça?
Bah en fait il y avait aucune réponse. Je me dis ouais, je suis Colombo, je vais aller sur Google et tous les résultats parlent d'une chanteuse de zouk qui n'a donc rien à voir avec non, on danse le zouk ou on chante? Non, on danse le zouk.
Pardon,
une danseuse de zouk. Et c'est comme si en fait internet ne surfait pas sur un buzz énorme alors que en fait il y a 500 000 personnes qui regardent les vidéos Instagram de Stony. Je sais pas si vous vous rendez compte quoi, c'est que ouais. Moi je me disais c'est un influenceur comme un autre, je vais trouver plein de trucs machin. Le seul site, c'est un site qui s'appelle Famous Birthday et qui dit en fait il classe des gens sur Instagram et qui le considère comme une grosse resta d'Instagram. Et c'est là que j'en apprends plus sur Denatora. Vous vous souvenez qui était dans le tweet dont je parlais au début?
Ouh, ça c'est le cliffhanger.
C'est
le flashback, elle était là depuis le début.
Parfois il danse avec Denatora qui est aussi considérée comme une grosse resta d'Instagram. C'est tout en anglais, hein, je vous fais la traduction en verlan. Et donc c'était vraiment le premier tweet où je me disais il se passe quelque chose, je commence un peu à comprendre. Et je me rends compte en fait que j'arrive dans une communauté de jeunes danseurs nés à la fin des années 90, mais c'est toujours pas clair ce qui est arrivé à Stony, pourquoi il est parti, pas revenu, enfin on sait pas, ce qu'il y a une espèce de laps de temps ou donc machin. Donc je comprends, j'essaye de chercher des sources et le seul article de presse qui parle de Stony, c'est un article de West France.
Quoi?
Premier sur le buzz.
Le titre, je vous le lis, c'est Nantes.200 fans pour l'instagrammeur Stony.
Yes.
La starlette était attendue dans un restaurant à l'Allée d'Orléans ce mercredi après-midi à Nantes. Il totalise 246 000 followers sur son compte Instagram. Stony R. Perez, j'apprends des choses, qui se présente comme danseur, avait donné rendez-vous à ses fans à la fête à crêpes, restaurant de l'Allée d'Orléans. Et ils sont venus, point d'exclamation. C'est la fin de l'article. Donc ça, c'était le 11 avril dernier, donc rien à voir. Franchement, j'apprends rien avec ça.
J'imagine tellement, mais ça qui colle ses coupures de presse sur son mur.
En train d'accrocher des trucs avec des ficelles et tout, ça commence à prendre forme.
Merci, quelqu'un me donne une information ou pas. Et en fait, là, je retombe sur un tweet du 14 juin, qui est une capture d'écran de la story Instagram de Stony. Et dans, on lit, donc, dans cette capture d'écran, suite à de nombreuses critiques, j'ai décidé d'arrêter la danse. Bonne continuation et à dans une autre vie. Oh. Emoji avec la petite goutte de sueur. Là.
Bande de sorciers.
Bande de sorciers.
En fait, le lendemain, il était revenu. Et les internautes n'étaient pas dupes. Genre, votre Stony au corps sec a soi-disant supprimé le contenu de son compte Insta pour prendre un nouveau départ. Il a surtout pleuré toute la nuit en suppliant Dieu de lui offrir ses muscles pour l'Aïd.
Ça, c'est très Renoir. Il a supplié Dieu de lui offrir des muscles pour l'Aïd.
Oui, alors, il y a ce tweet qui résume à peu près tous les tweets que j'ai lus. Je viens d'aller voir l'Insta du fameux Stony. Je ne comprends pas pourquoi les gens lui crachent dessus. Je n'imaginais pas qu'il faisait des trucs graves, mais je découvre que le mec danse. En fait, il y a plein, c'était un espèce de gros mélange de gens qui disaient, mais c'est qui Stony? C'est qui Stony? C'est qui Stony? Et de gens qui disaient, mais arrêtez de cracher sur Stony. Et en fait, j'ai lu, genre, je pense, 5 tweets qui étaient vénères contre Stony. Et en fait, j'ai l'impression que je sais pas où. Franchement, j'ai cherché tous les tweets et je remonte jusqu'au 10 juin. Où là, je vois plus beaucoup de tweets. Et je comprends que l'origine de ces soi-disant critiques, où j'en ai vraiment pas eu tant que ça, semble être une vidéo tournée à l'iPhone du roi de l'afro-trap MHD. Apparemment, vous le connaissiez tous ici.
Enfin, d'un surtout.
MHD, pour info, il remplit Bercy, hein, juste pour ceux qui savent pas.
Oui.
Et en fait, Stony, il est dans cette vidéo et il danse sans enlever ses AirPods. Il y a genre 5 ou 6 mecs qui dansent et c'est le seul qui a ses AirPods et il se fait lyncher parce qu'il a des AirPods.
Ça, c'est un motif de crime time sur Twitter.
Bah, apparemment.
Early adopteur du malaise. C'est le DM, Early Dancer du malaise avec des AirPods.
Mec, soit tu connais tes pas a cappella, soit t'as besoin de la musique, quoi. Désolé, hein, voilà. Il y a deux teams. Hein.
Mais la vidéo, en fait, elle a tellement tourné que le MHD en question, donc le Mohamed.
Oui.
C'est ça que tu dis, Daz. Ouais.
L'artiste.
En fait, il a fait cette vidéo, il s'est dit, ok, c'est juste des mecs qui dansent et qui, lui, il chante en onomatopée. Et en fait, il en a fait un clip qui s'appelle Bodyguard, qui recrée une battle de danse et le fameux Stony figure à la fin parmi d'autres danseurs. La vidéo, actuellement, elle est en trending sur YouTube.
C'est ouf.
Hier, elle était à 500 000 vues alors qu'elle avait été publiée hier, le 19 juin. Donc, en fait, voilà toute la source de l'énervement des tweetos. Pendant quelques heures, Stony, dont ils sont jaloux, et il avait eu le malheur d'avoir des AirPods.
Et un corps sec.
C'est ça. C'est comme quand nous, on se défoulait sur Loïc Lemer partout en 2009. C'est du hate-watching dans la sphère des influents qui dansent sur de l'afro-trap. Mais c'est fou parce que vraiment, moi, ce que je lisais, c'était c'est qui Stony? C'est qui Stony?
Donc alors, du coup, on a la victime, on a le mobile
et on a l'origine de la chose.
Et est-ce qu'on peut revoir le tweet du début?
Et le tweet du début, donc on se rend compte, si on relit, je vais vous le relire parce que vous l'avez sûrement oublié.
Bah on a entendu trop de choses là, on a la tête tellement pleine.
Dieu merci, on peut bloquer les gens sur Insta parce que, enfin PSK. Sinon, je serais déjà partie de ce réseau social à cause de Stony, China Girl, Doc, Charlito le vrai, etc. Sérieux, je fais une overdose là. Même Denatora, j'en peux plus de lui. C'est déhanché. On les connaît depuis 2009. En fait, c'est une bulle de danseurs afro-trap qui sont juste très influents.
Qui ont été trigger par des AirPods.
C'est ça. Et ça a donné un clip qui est une grosse vidéo. Du coup, bah, c'est vraiment comme si on...
Mais la boucle est bouclée, du coup.
On critiquait quelqu'un
d'influent. On peut applaudir très, très, très belle enquête de Mélissa. Ah, okay. Ouais, vraiment, je... Mélissa, superbe. Alors là, du coup, tu cherchais ta petite perlera. Là, t'as été loin, puisque tu as été jusque Nantes. Tu as été hors du web.
Jusqu'à la fête à crêpes.
Oui, ouais. Jusqu'à la fête à crêpes de Nantes. On découvre aussi que... Il y a des gens qui vivent hors de Google et qui sont des superstars et qui sont c'est même ça. Quasiment pas répertoriés par Google, ce qui est quand même.
Et je m'attendais vraiment à trouver des articles de tous les sites qui référencent tous les buzz. Il y avait rien du tout, quoi. Pas de Melty, de rien du tout.
C'est pas répertorié par. Waouh, il y a une belle moto qui est passée. C'est pas répertorié par Twitter et Instagram. Ils sont pas scannés par les robots de Google. C'est fou, ça. Ou mal.
Pas surtout. Ouais.
C'est étrange parce que là, vraiment, c'est. Ça reste une petite vague.
C'est une petite vague provinciale.
Quoi, hein.
Bon. Et puis surtout, ça s'est passé entre le 14 et maintenant, quoi.
Ouais. Le 10, la vidéo, c'est le 10. Et lui, il est pseudo parti le 14, je crois. Et maintenant.
Il est revenu le 15.
Le 14,
on appelle ça une Jay-Z hein, dans le
monde. Et en fait, depuis ce moment-là, tout le monde dit mais qui est Stony? Mais qui est Stony? Il y a même des tweets genre je suis Stony.
Enfin, c'est avec chaud. La police de je suis Charlie.
Bon, alors, au-delà de cette très belle enquête et de Stony. Donc Reply All le fait, tu l'as fait aussi maintenant, c'est effectivement, quand on y prête attention, des fois on tombe sur des trucs complètement cryptiques et crypto, et des fois nous sommes nous-mêmes l'auteur de choses que les gens ne comprennent pas du tout, ils comprennent rien à ce qu'on dit. Imaginons une discussion entre Daz, Caféine et Pentarou par exemple, voilà, si des gens tombent dessus, ils comprennent pas, ouais. Il faut mener l'enquête. Et effectivement, j'étais comme toi, mais ça, j'ai eu de la flemme, des fois je comprends pas, je dis, j'ai pas le temps. Là, à un moment, effectivement, je vois quelqu'un qui a fait un mème, qui est déjà un cross mème de seconde génération, intégré dans un autre mème, et j'ai même pas compris le premier mème, et j'y vais pas. Et toi, tu as fait l'enquête, parce que c'est, en fait, c'est un vrai petit plaisir aussi, c'est la beauté de la curiosité et sérendipité d'Internet.
Mais ça prend du temps, parce que je me disais, je vais faire ça en 2 heures. Non, pas du tout. Entre le moment où j'ai trouvé et le moment où j'ai cherché, et j'ai réussi à trouver ma conclusion, parce que franchement, la vidéo de MHD, là, j'avais pas compris que c'était ça qui avait tout emmené jusqu'à vers minuit 30 la veille de. Enfin, hier, quoi.
Ce matin.
Et j'ai fait genre, ah, mais c'est ça la résolution. C'est
comme
ouf.
Comme une vraie enquête, comme un vrai film policier, quoi.
Et j'étais vraiment genre, ça y est, en fait, il y a une vraie explication intéressante. Parce qu'en fait, j'avais pas réalisé MHD. Parce qu'il y avait des MHD dans tous les trucs, je me dis c'est quoi MHD,
c'est comme PSK,
c'est comme PSK. Non, PSK, j'aurais pas compris, j'aurais compris PCQ, mais pas PSK.
Là, je google et je suis tombé sur un article de Click qui expliquait MHD, toute la genèse de la vidéo et tout, et j'ai compris.
Merci Click. Merci Click et Masqué et tous les mecs qui arrivent à nous expliquer leur rap. Juste avant qu'on demande un avis à tes petits camarades, est-ce que tu as pris du plaisir à cette enquête ou est-ce que ça t'a donné envie de dire ok, maintenant que je vais tomber sur un truc qui est vraiment cryptique, je vais l'enquêter un peu, quoi.
J'ai adoré. Franchement, c'est vraiment, tu te dis, tu vois, être sur Internet peut servir à quelque chose. Et en plus, c'est vraiment ce plaisir de, il y en a plein partout, mais il y en a un que je vais vraiment bien le connaître.
Tu vas te dépioter comme on dépiote un petit crabe, quoi.
Et c'est vraiment ce truc de pas être sur Internet juste à scroller et te dire, ok, je vais chercher, je vais trouver, on va y arriver. Et ça, c'est vraiment le
tout ça pour
en
arriver aux AirPods.
Donc, c'est une enquête qui cross l'univers Twitter et Instagram.
Ouais.
Et YouTube.
Et YouTube. Et YouTube. Et YouTube, ouais. Parce qu'en général, il y a aussi du Snapchat qui est
non, mais je trouve ça fascinant parce qu'en plus, moi, c'est pas un truc de fou qui se passe. Hein. Stony, c'est juste un danseur, en fait. Oui. Mais je pense que des enquêtes comme ça sur Internet, il y en a potentiellement des milliers et que vraiment le journalisme les ignore un peu beaucoup. Quoi,
on comprend aussi un peu quand même.
Oui, mais en fait, t'as des trucs de fou, je pense.
Non, on peut tomber sur des choses folles.
Parce que t'as un matériau de.
On a les fameux articles de cet homme qui s'était mis à coder pour faire des concours Twitter. Et qui, à force de mener l'enquête, s'est rendu compte qu'il y avait un réseau de dealers de vol de comptes Fortnite ou Spotify, et c'était génial.
Klakinumi, je crois, il s'appelle.
Oui, et là-dessus, on retrouve le côté petite enquête amateur, mais quand même.
Je tire le fil. Non, mais
ça part d'une connerie et ça finit en mode investigation dans Wired. Tu peux faire une couve là-dessus, quoi. Tu vois, enfin, c'est ça qui est ouf.
Est-ce que vous, comme Mélissa, des fois, vous menez l'enquête comme ça? Première question, est-ce que vous le faites par ennui, par curiosité, par envie, justement, de sérendipité, de dire je vais découvrir un autre Twitter, un autre Instagram, d'autres choses.
Ouais.
Sylvain, Daz, pardon.
Ouais, moi souvent je le fais.
Ouais.
Ouais. Parce que le Twitter que je qualifie de Twitter banlieusard jeune,
Ouais.
Mais c'est une mine d'or le truc. Tu découvres des trucs et moi je me pisse dessus à chaque fois parce que il y a déjà la syntaxe des mecs qui est complètement éclatée et on en rit, tu vois. Et
des souvent expressions les expressions qui sortent de nulle part.
Tu vois, moi j'avais rigolé en voyant passer un truc. Ouais, Coca-Cola, faut lui niquer sa mère. Et je me suis dit, putain, Coca-Cola, c'est quoi? J'ai compris que c'était l'antagoniste dans un clip de PNL qui avait les cheveux teints de couleur rouge et les gens mélangeaient le clip et le mec. Puisque dans les clips de PNL, par exemple, ils mettent leurs potes en scène.
Oui.
Donc le mec qui était le méchant dans le clip, ben, c'est un mec normal dans la rue, en fait.
Ouais.
Et tout le monde voulait le goumer parce que dans le clip, c'est lui qui participe à coffrer le machin et tout. Et le mec se déchaînait contre Coca-Cola. Donc je sais pas s'il y a un CM de Coca-Cola qui, d'un seul coup, il a fait « Waouh, on traîne, on traîne, on a aucune campagne en cours et tout, comment ça se fait ?» Et non, c'est juste un mec de Corbeil-Essonne qui s'est fait appeler Coca-Cola parce qu'il a les cheveux rouges. Et c'est exactement le genre de truc, tu prends un tweet. Ouais. Tu détricotes, tu croises des snaps, tu comprends pas, tu vas plus loin et tout, et à la fin tu fais qu'est-ce que je fous là.
Donc t'es heureux et un peu coupable quoi.
Ah complètement, ouais, non, c'est très marrant.
C'est ce qu'on a appelé à juste titre à une époque l'autre Twitter.
Oui.
On parlait beaucoup de ça.
Du coup t'as l'autre Snapchat, t'as l'autre Instagram, t'as l'autre Internet.
Je me demande si c'est pas nous l'autre Twitter.
Bah pour eux bien sûr.
Parce que là s'il y a 500 000 retweets, 500 000 partages d'une vidéo et.
Moi, le premier truc auquel j'ai pensé en écoutant la chronique de Mélissa, c'est. Putain, on est vieux, ça y est, quoi.
Ouais.
On est vieux, ça y est.
Ah bah,
franchement.
PSK, déjà.
SRX.
On est des yeux de chez yeux, quoi.
Non, SRX, on savait. Quoi.
SRX, je l'avais. PSK. Ouais.
PSK, c'est un morceau de Schoolie, il faut le redire.
PSK, je crois que c'était le nom encore d'un rappeur comme MHD, moi.
Mais oui, mais ils sont chiants, les rappeurs en trois consonnes, là. C'est insupportable.
Fibre, est-ce que des fois, tu mènes l'enquête pour le plaisir de mener l'enquête? Pour non. Savoir, comme Daz ou peut-être Mélissa, que ça ne sert à rien. C'est pour la gratuité, le plaisir de résoudre des énigmes ou de découvrir des choses.
Alors j'ai une réponse et deux méta-remarques.
Ah, deux méta-remarques, mais dis donc, c'est froid, c'est même plus, j'ai deux points dans ma réponse, j'ai une réponse et deux méta-remarques.
Alors la réponse est oui, parce que les training topics, ça m'intéresse beaucoup. Et d'un coup d'œil, ce qui est bien, c'est que les training topics, c'est normalisé au fil du temps, assez rapidement. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite si c'est un hashtag d'un match de foot, si c'est un hashtag politique, si c'est encore... Moi, tous les matins, il y a les grandes gueules RMC. C'est GG RMC. À chaque fois, je crois que j'ai Georges Martin qui a claqué, tu vois. Et je dis, ah, il se passe quoi, tu vois. Et en fait, non, c'est les grandes gueules RMC. Mais en vrai, parfois, effectivement, il pourrait y avoir Stony en training topics. Et je dis, ouais, il se passe quoi? Est-ce que c'est un nouveau jeu vidéo de Bethesda, tu vois? Et en fait, on tombe sur, effectivement, des nébuleuses qui sont super... Et ça m'arrive de creuser un petit peu, parfois, parce que des scandales et le drama, c'est marrant, quoi, tu vois. Ouais. Sinon, au niveau de mes méta-remarques, il y a deux choses qui... Enfin, il y a une chose qui m'a choqué dans ton truc, et je trouve que c'est très 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 important, presque c'est un point essentiel. Si j'avais un blog, je ferais un article dessus. C'est qu'effectivement, t'as pas trouvé sur Google des informations,
ouais,
sur
ça m'a choqué aussi grave.
Et ça veut dire une chose,
ça veut dire qu'on est vieux.
Non, c'est pas ça. C'est que pour la première fois, les mecs, les ringards qui disaient le web 2.0, ben là on peut dire ils ont raison. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau web qui est celui des réseaux sociaux. Qui est hermétique par rapport au web de Wikipédia et de Google.
Mais est-ce que c'est pas parce que l'affaire était beaucoup trop fraîche pour les robots de Google qui
peut-être n'indexent pas, ouais, mais Google prend un coup de vue.
Ouais, mais c'est-à-dire que là, si tu retournes, tu vas tout trouver.
Mais non, mais non, parce que
c'était hier. J'avais entendu qu'entre le 10 et le 19,
il existe depuis au moins un mois, ce type-là, 500 000.
Oui, non, oui, en
fait. Il y a vraiment deux mondes hermétiques. Donc, ça, c'est la première chose. Vous savez, il y a ces gens qui sont un petit peu narcissiques qui ont leur page Wikipédia. Nous, on a une page Wikipédia Studio 404 grâce à ça, mais on n'a jamais cherché à faire ça. Et en vrai, on cherchera pas. Et ça se trouve, demain, bah, tu vois, l'âme, il fait des tas de trucs, il n'a pas de page Wikipédia. Et il y a des tas de présentateurs de nouveaux trucs ou des gros tweet shows qui n'ont pas de page Wikipédia parce qu'ils s'en branlent, en fait. Et parce que c'est le vieux monde du web, finalement. Et le deuxième roi, donc ça, c'est ma première méta-remarque, c'est-à-dire qu'il y a un vieux web qui est en train de mourir, qui est en train de disparaître, qui est celui des vieux, narcissiques d'une certaine façon. Et les enquêtes d'aujourd'hui, telles qu'a fait Mélissa, c'est des enquêtes qui sont essentiellement sociologiques. C'est-à-dire que tu rencontres des humains et tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. T'es pas les enquêtes à l'ancienne en regardant des archives de Wikipédia et en essayant de croiser les sources et en disant il s'est passé tel fait, il s'est fait ça, c'est quoi le contexte de ça? C'est que c'est quoi de l'humain? Et c'est aussi très intéressant parce que c'est, on va dire, l'intelligence, enfin, l'enquête 2.0. Quoi, voilà.
Oh, c'est beau, l'enquête 2.0.
Ou la sociologie.
Mais,
finalement, je vais être le mec un peu rabat-joie, mais cette enquête, cette chronique, moi, je l'ai trouvée marrante et intéressante parce qu'on a appris des nouvelles expressions et qu'on s'est marré, etc. Mais en soi, est-ce que c'est intéressant de savoir?
Mais non, justement.
Ça
mais c'est ça qui est, comme des dates, c'est qu'en fait, à la fin
c'est
de l'enquête,
comportement
c'est complètement
qui est,
gratuit.
Qui est intéressant pour
c'était le plaisir de mener une enquête puisque de vraiment.
Pour moi, pour un truc qui va durer 6 jours et disparaître demain, ça me dérange pas que Google l'indexe pas, en fait. Bien au contraire.
Ah, c'est un
bon rabat-joie. C'est un bon rabat-joie.
Faux, c'est très intéressant parce que c'est ce qui arrivait au pauvre Stony, ça va arriver demain à Endora, tu vois. Endora, c'est
Denatora.
Denatora. C'est un mec.
Donc, il semble être un homme.
Ouais. Voilà, ou à China Girl, c'est ça?
China Girl.
China Girl.
China Girl, tu vois. Ou même au grand MHD, tu vois. Donc en fait, on apprend des schémas de choses qui se passent et ça nous a.
Surtout, Google ça. Indexe plein de trucs complètement éphémères, comme des trucs de télé-réalité, des machins. Tu tapes n'importe quel machin dans l'heure. T'as tous les articles sur des stars de télé-réalité qui sont indexés par Google, donc c'est pas une question de est-ce que c'est important ou pas, c'est important qu'ils soient indexés. Moi.
Je trouve ça bien que certains trucs, des phénomènes qui se passent, soient pas du tout ramassés par Google. Ça
ouais, pour moi
que...
c'était le. Je suis d'accord avec Fibre, peut-être avec vous, c'était le point le plus ouais, important. C'est-à-dire
qu'il peut se passer des choses sans que ça arrive sur Google.
Et Google n'avait rien compris. Le coup de vie vient de là, en fait, peut-être.
Bah, Google ne se connaissait pas Stony, il y avait ses comptes réseau, mais c'est tout.
Peut-être que Quant, moteur de recherche français, oui madame.
Attends, vas-y, je
peut-être
fais une recherche.
Peut-être que Quant connaît Stony. Attention,
mais non, parce que peut-être que le web en dur, c'est-à-dire le web de, à part West France, le web de, du Parisien,
dans
le
West
web
France,
ça,
c'était là. Hein.
C'est des gens qui ne sont pas dans ce monde-là.
Ouais. Ta recherche.
Alors, ta pote.
Quant, incroyable. L'innovation made in France.
Stony.
On n'a pas internet.
C'est Stony Pérez en plus.
Faut meubler.
Mais c'est vrai qu'au début, non mais s'il faut meubler, au début de la notoriété d'Enjoy Phoenix. Les gens disaient, mais c'est quoi ces 800 bah oui. personnes à Lille qui font la queue pour une nana qui s'appelle Marie Lopez.
Si c'était Pérez, il y avait un trend.
Entre Stony Pérez et
Marie Pérez.
Et c'est là que tu vois le cliffhanger, c'était la même personne dès le début. Elle retire son masque comme dans Scooby-Doo, fait
Mélissa vient de taper Quant dans Google pour aller sur Quant.
Oh, les pauvres, ils vont pleurer, ils nous écoutent.
C'est une bonne guerre.
Ouais, faut pas que Agathe et Valuna et Gabi nous écoutent, ils vont dire putain les yeux.
Ah ouais, non mais là on est foutu.
Ils pensent avoir un podcast avant-gardiste mais ils sont en train de taper Quant dans Google. Ils ont rien vu.
On a ses comptes Instagram, Facebook. Non mais ça je les avais déjà vus sur Google quoi.
Surtout, comment avoir 500 000 followers sur Insta avec 48 photos.
295 000. Et parce qu'en fait donc il en a quand même enlevé au moment où il a fait semblant de partir là, mais il en a remis.
Tout ça pour avoir dansé sur l'afrotrap avec des AirPods quoi. Incroyable.
Ah, mais en fait, il n'y a pas plein de trucs, c'est toujours son compte Instagram ou son compte YouTube.
Mais nous, tout vieux qu'on soit,
tu vois, après,
moi, un mec qui danse avec des AirPods, je ne vais pas aller le défoncer sur les réseaux sociaux. C'est les jeunes, les.
Alors, il y a ça aussi. Moi, c'était une remarque aussi. C'est on est vieux, mais les jeunes sont fous.
Ils sont cinglés.
Toi, tu étais un hater et tout, et tu taillais quand tu étais jeune.
Les jeunes avaient du temps, mais c'est ça aussi.
Oui, mais sauf que toi, c'était pas Stony, c'était les marketeurs.
Foutre la merde comme ça, et aussi mener des enquêtes, c'est-à-dire trouver un truc et dire allez, je vais aller chercher l'origine et tout. C'est des trucs que j'avais le temps de faire, effectivement, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, et qu'on se faisait chier en cours, quoi. Mais aujourd'hui, on a plus le temps. Ça t'a pris vachement de temps, au final. Ouais, tu le referas pas demain.
4
tu vois.
Ou 5 heures.
Tu le referas pas pour le plaisir, en fait.
C'est pas à cause des AirPods. Il y a une période où t'aimais beaucoup Elon Musk. Si à cette période-là, t'as un mec random que t'aimes pas trop sur Twitter, c'est genre un mec vraiment t'aimes pas trop. Lui, il devient hyper pote avec Elon Musk et il fait des photos de lui, alors il serre la main tous les jours. Elon Musk dit ah, c'est un cool gars. Peut-être tu le détesteras, tu diras c'est qui ce mec avec son polo de merde.
Non, il serre la main avec des mitaines et qu'il les garde. Parce que ça se fait pas. Et là, bam, crime time, direct. Non, les jeunes sont cinglés.
Il a gardé ses gants, vas-y. Je sais pas, moi,
j'ai l'impression qu'on fait du vieillisme.
Ah, totalement.
Oui, mais
là,
oui.
C'est violent de la fac parce que. Enfin, on n'a pas à 30 ans et 40 ans, on peut se mettre sur la gueule sur Twitter toute la journée aussi, hein, mais avec nos propres langages, nos propres trucs. Mais des gens qui se tuent sur la politique, le féminisme et le machin, t'inquiète pas qu'il faut pas avoir 18 ans pour se mettre dessus.
Oui, j'avoue.
De manière totalement gratuite avec des langages complètement cryptiques.
Exactement. Tout à fait d'accord.
Donc là, c'était un petit point rabat-joie. Bon, bah, on s'arrête sur cette enquête. On a surtout découvert donc le cliffhanger, c'est qu'on a découvert grâce à cette enquête que nous étions vieux. Allez, tout de suite, la dernière FAQ.
FAQ.
Allez, dernière FAQ, une petite FAQ utile. Paquerette, underscore Paquerette, underscore, sur Twitter, nous demande est-ce qu'on peut se reconvertir en suivant uniquement des MOOC, des MOOCs. Donc on vous rappelle, ce sont des cours en ligne. Okay. Donc voilà, ça sent l'auditrice qui est au bout du rouleau, hein, qui en a marre de son job,
qui veut pivoter sa carrière,
et qui n'a pas réussi à négocier une formation entreprise et qui voilà, va se lancer dans des cours en ligne. Allez, question un peu sérieuse, mais toujours très utile. Est-ce que vous pensez qu'on peut se reconvertir totalement et partir de zéro? Alors j'ai lu pas mal d'articles médiums là-dessus, mais ça sent toujours les articles médiums, genre comment je suis parti de chômeur à un salaire à six figures,
vraiment.
En ne suivant que des cours en ligne et des tutos YouTube, mais.
Eh bien, j'ai envie de lui répondre, pour la permaculture, oui. Pour devenir ingénieur en aéronautique, non.
D'accord.
Ou alors si, mais tu voleras toute seule dans tes avions.
Et un jour, tu la verras à bord de l'Airbus 480 en disant « So long, suckers !»
Non, mais oui, en fait, je pense que ça dépend effectivement.
Donc, limité pour Sylvain. Oui, mais limité.
Ça dépend du champ de compétences, ouais.
On va dire tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te faire une formation ouf si tu suis assidûment, tout seul ou toute seule comme un grand?
Oui, mais est-ce que cette formation te permettra de décrocher? Parce que le but de se reconvertir, c'est quand même à un moment donné de travailler, tu vois.
Bah justement, est-ce qu'il y a des systèmes d'équivalence? Parce que, comme dit Manu, ce bon vieux Manu, on a besoin d'un diplôme avant de faire la révolution.
Ah, bah, je pense que là, pour le coup, Manu le malin, il a raison, là. Parce que tu peux avoir suivi tous les cours d'explosifs que tu veux sur YouTube. Tu seras pas artificier au sein du raid.
Mais où est la Startup Nation?
À la Légion étrangère, si.
C'est pas ce que diraient les terroristes. Hein,
à la Légion étrangère, si, par contre.
Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr.
Fibre, qu'est-ce que tu disais avant de dire le mot terroriste?
Je disais, c'est pas ce que diraient les terroristes, puisque. Bon, bref. Mais non, moi, je dis à Pâquerette. Non, Pâquerette. Pâquerette, oui, tu veux. Hop, excusez-moi, j'ai bu. Pâquerette.
Tu es magnifique ce soir.
J'adore les fleurs.
Tu es très très en beauté, je sais pas ce qui m'arrive.
Pâquerette.
J'ai l'impression que tu as dit Pâquerette en la regardant droit dans les yeux. Pâquerette.
Valérie Pâquerette.
Oh non!
Ouh, là je repense à une citation sur Slack.
C'est son fantasme. Ne souille pas notre auditrice. Ok, c'est non. Retire ce Valérie tout de suite.
Ok. Alors, Pâquerette.
On sent qu'au début de dîner, il était très sérieux au restaurant italien.
Non,
au
j'ai
bar
tellement
québécois,
de trucs à dire. Non. Moi je suis effectivement. Alors, je n'ai pas la bûche de parole, mais on a eu un débat très animé sur l'éducation.
On fera hors série.
Et j'espère qu'un jour on fera un hors série spéciale éducation. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet parce que. Je pense qu'effectivement, le futur, même le présent, c'est il faut s'auto-former. Okay. Donc, et je crois à fond au fait d'apprendre des choses tout seul, et c'est bien plus efficace que de prendre des cours. Effectivement, en France, on a le problème qui est la barrière du diplôme, parce que on est un pays aussi de cons, voilà. Et par contre,
dit l'ingénieur. Hein,
par contre, j'ai juste un truc à te dire.
Tu as été de l'autre côté de la
barrière. Je t'invite, Pâquerette.
Je vais débattre, mais je suis 100% en désaccord avec toi.
Je t'invite.
On débattra.
Je t'invite, Pâquerette, à ne pas suivre le conseil de Sylvain, à devenir ingénieur en aéronautique. Et sache que tu peux construire ta propre montgolfière dans le jardin. La seule chose qu'il faut payer, c'est 700 francs. Alors, je ne sais plus comment ça fait en euros. Et pour qu'il y ait un ingénieur des montgolfières qui vérifie que ta montgolfière soit bien étanche. Et je serai le premier à voler dans ta montgolfière.
Oh,
mark my word.
Marquez mes mots. Très bien. Et bien voilà, Fibre-Tigre t'invite, Pâquerette, à te reconvertir
en montgolfière.
On a perdu Fibre-Tigre en 2019 lors d'un vol en montgolfière qui a mal tourné. Et là, Mélissa va devoir enquêter sur Instagram.
Alors, Mélissa,
il faut
répondre au MOOC.
Mais c'est ce que tu crois au MOOC, mais de manière pas juste pour du hobby plus ou du renforcement de niveau, mais pour vraiment faire une vraie reconversion. Un U-turn, 180.
Pour ne pas en avoir suivi.
Oui.
J'ai aucune idée si t'as des cours pratiques.
Ah bah non, parce que non. C'est un MOOC.
T'es devant ton ordi.
Donc bah non.
Il y a des évaluations.
Non, c'est sûr qu'il y a un MOOC de chirurgien, de neurochirurgien, c'est un peu compliqué.
Il y a quand même beaucoup de métiers où c'est compliqué si tu pratiques pas à un moment ou à un autre et de manière assez répétitive, quoi.
D'accord. Donc pour toi, comme Sylvain, il y a une limite quand même.
Ouais,
il y a une limite à ce que tu peux faire.
Mm-mm.
Bon, ok, très bien. Bon, et ben voilà, écoute, Pâquerette, tu as 3, oui, mais c'est de la limite. Et 1, je m'envolerai avec toi. C'est pas mal.
Allez. Je quitterai le plancher des Pâquerettes, voilà.
Oh là là. Quel dommage. Quel dommage.
C'est dommage.
C'est bizarre de finir là-dessus parce que là, tu vois, la montgolfière se dégonfle complètement. Là. Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique avec Monsieur Daz.
Sujet numéro 4.
Si elle avance, mais qu'elle recule, comment veux-tu que l'ubérisation...
Aïe. Merci l'âme pour cette titraille.
Ben, c'est un peu un résumé de ta chronique sur la gig économie qu'on appelle plutôt l'ubérisation en France.
Petit boulot.
Mais voilà, on appelle ça la gig économie. Enfin, petit boulot plus numérique, c'est la gig économie.
Voilà, donc retour sur la gig économie. Donc il y a de cela plusieurs printemps, je disais...
D'abord nommé économie du partage, avec les trocs de train, Blablacar et autres, on s'oriente maintenant vers un mode que les Américains nomment la gig economy.
La gig economy.
Ouais, l'économie des petits boulots. On arrive doucement au monde idéal imaginé par Fibre Tigre dans son programme de droite dure du futur. Un monde où tout le monde devient freelance. Freelance à 5 balles. Faut quand même être au bout du rouleau pour se lancer dans ce traquenard. J'ai beau chercher la raison, impossible de la trouver. On parle de revenus d'appoint, d'arrondir les fins de mois, mais à 5 euros le job, les fins de mois vont continuer à être rectangulaires pendant encore pas mal de temps.
L'extrait que vous avez entendu date de mai 2016.
Il y a 2 ans.
Eh oui, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. En effet, du coup, hein, on fait Studio 404 depuis suffisamment longtemps pour avoir la chance de revenir sur des sujets abordés il y a plusieurs années. On se souvient par exemple du sort néfaste prédit par Fibre Tigre à Kickstarter. ou encore du succès imparable et éternel que serait Vine, toujours selon le même Fibre Tigre. Deux prédictions qui ont permis à leur auteur de décrocher le poste convoité de early adopteur du malaise ou lead futuriste oracle prédictive évangéliste officer de qualité.
Bisous Techmar.
En 2016, donc, j'abordais la gig économie avec l'optimisme qui me caractérise. À ce moment précis, les gens croyaient au miracle pour de vrai en voyant la part des travailleurs dits dans divers arrangements alternatifs, c'est le vrai terme, passer de 10,7% en 2005 à 15,8% en 2015. Donc en pourcentage de la population active. Waouh ! Serait-ce la révolution tant attendue ? Celle qui met enfin d'accord les employeurs et les employés au nom de la sacro-sainte flexibilité totale ? Donc quasiment deux jours après, jour pour jour, les spécialistes du secteur s'accordent à dire que ouais, finalement, bon, peut-être pas en fait, tu vois. La raison ? Ben, les chiffres communiqués en 2018 par le Bureau of Labor Statistics américain. Que disent ces chiffres ? Ils disent que l'année dernière, sur l'année 2017, les mêmes travailleurs dans divers arrangements alternatifs comptaient désormais pour 10,1% de la population active, soit un chiffre légèrement inférieur à celui de 2005. C'est cocasse.
Ah bah oui.
Oui, surtout quand dans le même temps, le nombre de plateformes permettant de se saltimbanquer a lui explosé. Ice Bucket Challenge, ça veut dire douche froide hein, en anglais, pour Fiber Tiger, le fibre tigre américain, qui chantait les louanges de la gig économie et se voyait déjà dans un monde de freelancers payés au lance-roquettes. Lance-roquettes, c'est comme un lance-pierre, mais disrupté. Le site Quartz n'y va pas par quatre chemins. Lui, il titre simplement, en début de mois, « Tout ce qu'on croyait savoir sur la gig économie est faux. » Boum. Le Washington Post, il enfonce le clou dans un article publié au même moment. Les chiffres officiels montrent que l'Amérique de la gig économie est bien plus réduite maintenant qu'avant l'arrivée de Uber. Reboum ! Les fibres tigres vous laissaient miroiter un monde de freelance conquérant, rempli de gens eux dans bras de chemise bleu ciel et col blanc, mocassin en nubuck bleu, un pull sans manches noué nonchalamment autour du cou, parce que sans manches ou pas, quand on veut, on peut.
T'extrapoles un peu sur le portrait robot des gens ubérisés. Hein.
Les verres Varilux au vent en attendant la prochaine disruption. Surprise les gars ! On apprend en fait que le profil type, ce sont plutôt des seniors de 55 ans et plus, donc les baby-boomers et leur suite, qui cherchent un moyen de se faire un revenu supplémentaire pour ne pas être victimes du déclassement. Et vous savez qui avait vu juste en 2016 déjà à l'époque ? Mais oui, Sylvain Palais, notre président qui s'y connaît en saltimbanquerie.
Je te rappelle que quand tu as 60 piges aux États-Unis et que tu peux plus travailler parce que les entreprises te trouvent trop vieux, bah t'as pas forcément une retraite en fait. C'est pas comme en France, t'as pas forcément une sécurité sociale. Donc aller monter des meubles Ikea pour 15 balles, si t'as que ça à faire de tes journées, moi je trouve que ça va.
Mélissa, avec la clairvoyance et le bon sens qui la caractérise, abonde en parlant d'un de ses amis qui pratique et qui aussi ne semble pas en faire son revenu principal.
Quand d'accord. Tu gagnes pas beaucoup, ça, il a un petit salaire, il a pas le SMIC mais il a plus que le SMIC. Quand t'as un petit salaire, clairement ça augmente.
Ça met du beurre dans les épinards.
Du beurre dans les épinards, comme le dit l'âme. Beuréo, murmure Jean-Eudes, devant la machine à latte macchiato installée dans l'open space atypique de sa start-up. Arzo, s'exclame Tiger Phaser, le fibre tigre néolibéral allemand. Mais comment donc? Si les plateformes se multiplient, comment se fait-il que les chiffres régulent? Eh bien, pour la raison évoquée par nos estimés confrères, la gig économie à plein temps, c'est une chimère, Phaser. Peu de gens ont sauté le pas du full-time, c'est ce que les chiffres montrent. Un autre facteur explicatif vient d'un constat finalement assez évident, qui est évoqué, lui, dans un article publié il y a quelques jours aussi chez Mashable. Les gigs ne se déclinent pas forcément sur d'autres business.
Ah, intéressant.
Prenons Uber. Son modèle est simple, transporter des gens d'un point A à un point B. Il n'y a pas 36 façons de faire ça. Enfin si, mais sur ces 36, il y en a 35 qui sont illégales. Toutes les startups qui ont voulu décliner le business model d'Uber sur d'autres métiers ont réalisé que le travail était souvent moins basique qu'il n'y paraissait. Il y a une infinité de nuances qui dépendent du client et un savoir-faire qui implique du temps passé à former le travailleur. Temps perdu si le travailleur en question décide de devenir fleuriste à vélo le mercredi matin. Certaines startups qui occupaient des créneaux bien particuliers ont dû s'adapter pour conserver leur savoir-faire en faisant un truc jamais vu jusqu'alors sur ce secteur. Elles ont dû embaucher les gens. Eh ouais les gars.
Eh ouais.
Surtout quand elles ont réalisé que des salariés heureux étaient plus à même de faire de la pub à la dite boîte que des gens payés à la mission qui savent pas de quoi demain sera fait. C'est important parce que la gig économie, en plus d'être modulaire et souple, se coltine une clientèle qui paye mal, mais attend tout de même une prestation 4 étoiles. Je vais être honnête, malgré l'envie que j'ai d'insulter ces gens, cette mentalité de nouveau riche, c'est pas uniquement la faute des clients en question, elle a surtout été encouragée par les startups qui ont basé toute leur com sur ces délires de conciergerie pour tous, à prix doux. Un service de blanchisserie premium à domicile pour 1 euro la chemise, à quel moment le modèle a pu sembler viable ? Vous vous rappelez la bouteille d'eau et les bonbons qui vous attendaient dans votre Uber ? Vous vous rappelez quand on disait votre Uber et pas un Uber ? C'était le bon temps, hein ? En web design, on connaît le principe du WYSIWYG, pour what you see is what you get. avec Uber, Taxify et la gig économie en général, je propose le Whippy Wig. What you pay is what you get. Pour 5€ la course de 25 minutes en bagnole, tu ne peux avoir qu'un mec des bordières à Créteil qui vient te chercher en Clio 2 avec du Nesbill à fond sur son smartphone en mode haut-parleur et qui te pose en dérapage à Porte de Charenton alors que toi t'allais à Saint-Germain-des-Prés parce que les bouchons frère, Whippy Wig.
Whippy Wig.
Mais alors, est-ce que tout cela n'était qu'un sueño? Nous demande Fibra de Tigre, notre fibre tigre macronisto espagnol. C'est dit, c'est Manuel Valls en Catalogne. Eh bien oui, Fibra, oui, Fiber, oui, Fiber, oui, Fibre. Oui, tout ceci est parti aussi vite que Bodega, Juicero ou l'équipe d'Italie au Mondial 2018. Car il semble bien que oui, trouver des gens mal payés pour des tâches rébarbatives et un plan de carrière en impasse, c'est assez compliqué. Tant mieux pour les stagiaires, me répondront les plus malins comme Jean-Eudes. Mais ce n'est pas la faute des start-upers d'y avoir cru. Si la responsabilité incombe réellement à quelqu'un, c'est bien aux journalistes. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est même pas...
Justement, les journalistes s'y prennent pour leur gueule.
C'est pas moi qui le dis, c'est pas Donald Trump qui le dit, pour une fois. C'est carrément le Washington Post qui le reconnaît. La société a été transformée tellement vite et tellement profondément par l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook en tête, mais Twitter, Snapchat, etc., que les journalistes, voulant à tout prix être sur la brèche, se sont laissés séduire et ont vu des potentiels lames de fond ou des raz-de-marée sociétaux là où il n'y avait finalement qu'une petite houle et des vaguelettes mignonnes. Ou alors les chiffres officiels sont faux et on nous cache la vérité. Rendez-vous dans 2 ans pour vérifier.
On peut applaudir Daz, très très belle chronique. Elle aussi a fait le tour du monde. Hein. On est parti aux États-Unis, on est passé par l'Allemagne. C'était un peu The Beautiful le Pif avec Fibre Tigre à travers le monde.
J'aime beaucoup le Fibre Tigre allemand.
Tiger Fazer.
Ah, le petit Fibre Tigre espagnol, qui avait un sueño.
Un sueño.
Un sueño. Un rêve.
Tout cela n'était qu'un sueño.
Alors, retour donc à la base, une chronique encore une fois très chamarrée, très soyeuse,
oui,
mais qui parle de chiffres durs. La gig economy est en net recul, puisqu'elle a été en 2005 autour des 10,7 ou 8% pour monter à 15 ou 16%
en 2015
pour retomber là en 2018 enfin en 2017 à 10,1. Donc on a un recul et tu as donné les raisons. Une des raisons, c'est que déjà, eh ben, c'est dur pour les gens de se motiver quand en fait il n'y a pas de lendemain et tout est fait au lance-pierre, qu'il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas d'amour pour son entreprise. Parce que deux, comme tu dis, tous les métiers ne sont pas ubérisables. On peut pas, effectivement, des métiers, on va dire, exécutifs comme transporter quelqu'un, c'est facile, mais des métiers qui demandent une sensibilité ou
la blanchisserie, c'est l'exemple qui est fourni par tous les sites qui en parlent. C'est la blanchisserie où les mecs se sont rendu compte que faut quand même une expertise.
Ouais.
Tu peux pas juste prendre un mec dans la rue et lui dire hey, salut, tu deviens blanchisseur et en plus tu vas livrer les chemises que t'as repassées. Enfin, c'est cinglé comme.
Donc, ce sont les deux arguments du recul de cette gig economy, de ce désenchantement peut-être on peut dire. Enfin, on va voir avec vous les collègues de Daz de la gig economy. Effectivement, ça ne s'applique pas forcément à tout. Là, on a vu, c'était devenu une gag, l'ubérisation et on pouvait mettre n'importe quel mot, ça avait l'air de passer. Et effectivement, le côté, en fait, c'est pas cool. C'est juste pas facile.
C'est aussi
d'enchaîner des micro-missions à droite à gauche.
Il y a aussi une partie de la population sur laquelle les journalistes de l'époque se sont plantés. En fait, ils pensaient réellement que ça allait être la porte d'entrée pour le monde du travail pour plein de jeunes. Et en fait, il se trouve que au long cours, c'est principalement des vieux qui
Macron le premier qui encensait le Uber parce qu'il sortait les jeunes des banlieues, etc. Mais... Ouais.
Et on se rappelle aussi que ces fameux vieux dont tu parlais, dont Sylvain parlait, on en parle aussi souvent parce qu'il y avait cet exemple assez spectaculaire de ils vont chez Amazon pour aider à faire les pactages pendant les heures de pointe, genre les Black Friday ou les périodes de fête, etc. Et que du coup, il y avait une armée de vieux en camping-car garés devant les entrepôts Amazon qui arrivaient, qui repartaient. Qui veut réagir sur cette chronique sur le désenchantement ou le recul de la gig economy? Fibre. Mais lequel?
Le vrai.
Alors, lequel? Fibre, le français, fibre, l'américain, l'allemand, l'espagnol?
Je vais taper à l'ancienne sur la table. C'est n'importe quoi. Je suis contre, évidemment. Je trouve que c'est n'importe quoi. Première chose, c'est anecdotique. Mais j'avais pas prédit le succès de Vine. J'avais prédit son décès. Sous 6 mois, il a pris 1 an pour mourir. Je ne fais pas que des erreurs sur ce plan-là. Alors, première chose très importante pour avoir une analyse complète de la situation, c'est que l'économie mondiale est repartie plein pot, notamment à cause de Trump.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Quoi?
L'économie mondiale est repartie plein pot grâce à Trump.
L'économie plein pot,
grâce à la locomotive de l'Amérique.
Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase?
L'économie mondiale, on se porte vachement mieux qu'avant.
C'est quoi l'indicateur que tu dis?
C'est l'indicateur Pascal Pro.
J'ai envie de te faire chier là.
Eh bien, alors évidemment, j'ai pas les chiffres sous la main. Non, mais je laisse nos auditeurs vérifier. Mais
tapez économie mondiale dans Google.
Non, mais
plein pot.
Non, l'économie mondiale est repartie. Effectivement.
l'économie mondiale sérieux. Hein,
effectivement, que... effectivement, quand on est désespéré d'employer des gens à un meilleur salaire, eh ben, forcément, ces gens-là trouvent un emploi et ça laisse un peu moins de champ à l'ubérisation. Après, Uber, qui est le fer de lance, c'est un petit peu notre indicateur qui est un peu en disgrâce en ce moment. Il est en disgrâce parce qu'il y a eu des erreurs internes colossales au sein de l'entreprise qui ne sont pas dues au fonctionnement d'Uber, mais parce que le patron était un gros connard. Et ça, il y a des articles complets dessus, on pourra en parler. Et il y a eu pour Airbnb et Uber, il y a eu des rejets hyper forts de la techno, enfin du principe dans certains pays où à Londres, il n'y a plus d'Uber. Et je crois qu'en Allemagne, ils commencent à les refuser aussi. Donc voilà, et ils sont dans leurs petits souliers. Ah, si, si, il y a des pays entiers.
Non, pas entiers, non.
Bon, en tout cas, il y a des villes. Il y a encore des Uber à Londres.
Oui, j'en ai pris un ce matin.
Oui, oui.
Bon. Écoutez, je sais qu'en tout cas, je sais que Uber a présenté ses excuses à la ville de Londres il y a 2 mois.
À la société de transport TFL, donc, parce qu'il fallait que les Uber soient licenciés. Voilà. Maintenant, ils ont des licences.
Donc c'est quand même compliqué. Et ça a été compliqué pour moi. Non, mais je veux dire.
Non, mais c'est parce qu'il y a une régulation. C'est comme Airbnb.
C'est comme Uber en France, avec la licence des VTC.
Il y a eu un déploiement très fort. Maintenant, on est en train de voir la vague un peu de retour, mais ça ne veut pas dire que ça va se répartir encore. À mon avis, je suis de l'avis de notre président, l'ubérisation, c'est le futur.
De Manu.
Oui, de Manu, voilà. Ouais. C'est l'ubérisation, c'est évidemment le futur, puisque c'est la porte à une gestion de son emploi du temps, une gestion de ses moyens.
Puisqu'on te dit que c'est faux.
Mais oui, mais parce que toi, tu vis dans une cogip, t'as l'impression que ton modèle de vie, te lever tôt le matin et te coucher tard le soir, et de faire du boulot de con et d'entendre ton collègue parler de ses enfants tous les jours, ça te fait c'est le futur. Bah, vis dans ton futur, mais c'est le passé, ton futur.
Il a raison, Fib, les chauffeurs Uber, ils bossent quoi, 6 heures par jour.
Oui,
ils sont hyper bien payés.
4 heures par jour, même, je pense, pour les.
Ils peuvent monter vraiment. Tu vois les échelons un petit peu de
puis si tu roules vite, tu fais plus de courses en plus, et parce qu'on sait tous que le code de la route te permet de rouler à la vitesse que tu veux. Alors en fait, les travailleurs qui sont sous l'ubérisation, comme tu l'appelles là, en fait, Scoop, c'est pas des auteurs de jeux vidéo qui se vendent bizarrement, c'est pas des créatifs, c'est du travail, c'est ce que moi je considère comme des bases de la base d'œuvre, en fait, vraiment des tâches rébarbatives. Donc effectivement, de ton point de vue à toi, en tant qu'auteur de fiction, effectivement, le mode de vie que tu as est sympa. Bon, t'es obligé de t'expatrier en lointaine province pour trouver des appartements, mais ok, admettons. Sauf que ton cas, justement, et c'est pour ça que je te dis que t'es un peu le Pascal Pro de Studio 404, parce qu'en fait, tu prends ton cas et tu l'extrapoles comme si c'était vraiment comme ça que vivaient tous les Uber.
Je crois que quasiment tous les chroniqueurs font le font
bien sûr,
le coup, hein.
Mais là, c'est moi qui lui dis à lui. Évidemment, là, mais je vais pas m'auto-saboter mon argumentation.
J'ai l'impression que Pascal Pro vient traiter l'autre de Pascal Pro, là.
Non, mais lui, il est Pascal Pro, moi, je suis Pascal Amateur encore.
En vrai, pour moi, l'ubérisation, c'est exactement ce que disait Obama sur le mariage gay à son premier mandat.
Il a dit,
je peux pas être contre parce que c'est inévitablement le futur. Et l'ubérisation, de la même façon que la vision amoniste de l'intégration de l'IA dans tous les processus de la société, l'ubérisation totale de tous les métiers, c'est le futur. C'est-à-dire, plus tu recules, plus tu induis déjà de la souffrance dans la société, mais plus tu vas dans une vision hyper passéiste de
mais
la société,
tigre,
hyper déprimante.
Je suis d'accord avec toi. Ce que je te dis là, c'est pas que l'État essaie de faire en sorte de freiner le truc. C'est juste que les gens, naturellement, en reviennent. C'est ça le problème. C'est
non,
que finalement, toi,
ils,
ok,
ils,
c'est
le. Rien, mais il y a des circonstances. Ils disent pas, bon, écoute, l'ubérisation, j'ai bien réfléchi. Finalement, je préfère être salarié. Oui, pourquoi non, mais,
si.
non, mais tu sais quoi? Effectivement, moi, j'ai discuté hier avec une freelance qui fait mon métier. Elle me dit, quand est-ce que j'aurai un CDI? Pourquoi elle veut un CDI? Parce qu'avec un CDI, t'as un loyer. Tu peux demander un prêt à ta banque, mais parce que c'est la société, elle est dégueulasse, elle est mal branlée.
Ça, c'est vrai.
S'il y avait pas ces obstacles de structure de société, bah, elle préférerait effectivement ne pas avoir de patron et avoir ses horaires à elle. L'ubérisation, c'est le confort absolu du travail.
Non, mais non, non. Le Uber qui fait, moi, je parle avec le Uber que je prends. En général, les mecs me disent, on bosse en moyenne 13 à 14 heures par jour. Quoi.
Je veux dire quelque chose. J'ai vraiment largement de quoi me payer à vie un appartement tel que j'avais dans le 5e. Il y a aucun problème en location. J'ai été viré. Parce que je n'avais pas de fiche de paye, parce que ce pays marche sur la tête, c'est tout. Et j'ai dû aller dans un endroit qui était tellement désespéré dans la diagonale du vide que j'ai dit j'ai pas de fiche de paye, ils m'ont dit on s'en fout.
Ça,
voilà, bah, c'est super.
Ça, je crois que c'est un autre débat en fait.
Oui.
Ça touche pas forcément à l'ubérisation, ça touche à.
Un peu, parce que t'as pas de CDI. Le CDI, c'est vraiment le maillon essentiel l'existence en France.
C'est un sujet annexe, mais qui n'est pas faux, qui est effectivement. Un des espoirs de l'ubérisation en général, c'est qu'effectivement le CDI est. C'est un peu le règne du CDI comme c'est le règne des maths dans l'éducation, quoi. C'est un règne qui n'a plus vraiment de sens.
Ghislain, il est fonctionnaire, il gagne peut-être moins que l'âme, Et Gislain, c'est le seul propriétaire du groupe. Il l'a dit l'autre jour.
Pour donner un contre-exemple à ta thèse, ce problème de l'immobilier pourrait être résolu avec une intervention de l'État, régulation des loyers.
Tout à fait.
Et on devrait obliger les propriétaires à trouver d'autres trucs dans le dossier que le CDI.
Ouais. Tu vois. Même on devrait faire occultation.
Et ça, c'est l'inverse de l'ubérisation, l'intervention de l'État.
Bah.
Bam.
Non, là tu fais un argument philosophique. L'ubérisation, le modèle d'ubérisation, c'est effectivement le freelance appliqué à tous les secteurs d'activité, monitoré par une
application. Plateforme et des algorithmes.
Voilà, une application et des algorithmes. Après, il y a des obstacles structurels de notre société, un peu. Mais Daz est un obstacle structurel aussi, parce qu'il a une mentalité de l'ancien monde, tu vois. Mais je pense réellement que c'est inévitablement le futur. Et quand nos descendants, vos petits-fils écouteront ce que je suis en train de dire, il avait raison. Voilà, c'est normal.
Mélissa, tu n'as pas encore parlé. Et
c'est déprimant.
Mais qu'est-ce qui est déprimant? La chronique de.
Le capitalisme, enfin, tu vois, les sociétés qui veulent vraiment te prendre un max d'argent. Et te payer rien, et genre c'est l'avenir. Arrêtez de contrer.
Non, mais attends,
c'est pas comme si le capitalisme d'aujourd'hui était tendre.
Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le jour où 100% de la population sera ubérisée dans un secteur d'activité, par exemple les taxis.
C'est-à-dire même les patrons.
Non, oublions les patrons.
Okay. Ah d'accord, parce que j'ai compris ton modèle.
Non, mais l'entreprise n'existe plus. Quoi.
Non,
c'est-à-dire plein de pauvres.
Non, non, si l'entreprise n'existe plus, le problème n'existe pas. Le problème de l'offre et de la demande n'existe plus.
Non, mais le salarié, tu supprimes le salarié.
Mais ce que je veux dire, c'est que si...
Tu supprimes le salarié.
Si aujourd'hui, les meilleurs éléments...
Il va rebooter.
Non, mais c'est pas ça. Mais aujourd'hui, dans des secteurs d'activité, les meilleurs éléments en général, par exemple l'architecture, les meilleurs éléments sont des consultants extérieurs. Et si tu veux les payer... Tu te fies à leur prix et pas à ton prix à toi.
Encore une fois, il vient d'où cette affirmation, Fima?
Quoi?
Que les meilleurs éléments en architecture, c'est les éléments extérieurs.
Je sais pas, l'expérience.
Le doigt mouillé.
Non, mais c'est le doigt ultra mouillé, c'est n'importe quoi.
Non, mais vous pensez vraiment que les designers mondiaux, ils répondent à des appels d'offres et ils s'appliquent au prix des gens? Non, c'est
mais encore une fois, tu prends des cas extrêmes de Philippe Stark, de designer, d'architecte.
Oui, d'accord, mais.
Parlons du blanchisseur, parlons du taxi, parlons du boulanger, s'il te plaît. Des métiers.
Le fait est qu'aujourd'hui, 100% des blanchisseurs de Paris, ils sont ubérisés. Ils fixeront leur prix. Ce seront eux les rois. De la même façon qu'à un moment, il y a eu 100% des taxis parisiens qui étaient une sorte de mafia, qui avaient ses propres règles. Et c'est pour ça qu'il y avait un gros problème, c'est devenu des gros cons, on était contents.
Oui, mais du coup, là, t'es en train de dire tout au contraire. C'est que si les blanchisseurs définissent leur prix, ils retombent dans le monopole des taxis qui est la mafia.
Et donc, il faudra péter l'ubérisation.
L'ubérisation.
Non, pas si c'est via un algorithme. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Mais
il suffit de les tuer.
Moi, il y a un point de la chronique que je trouve intéressant et qu'on n'a pas évoqué, c'est notre capacité en très peu de temps à être devenus effectivement des nouveaux riches et à avoir une économie de la commodité et à tous avoir des femmes de ménage, à tous avoir des chauffeurs privés,
tous avoir des livreurs,
etc.
C'est la notion de conciergerie pour
en très
tous,
peu de temps, ouais. ce qui voilà, de conciergerie pour tous, ce qui pour moi dans ma tête quand j'étais jeune était un truc de en fait ce sera jamais ma classe sociale en fait de faire ce genre de choses, et ça c'est quand même ouf qu'on se soit habitué à ça et qu'on trouve ça normal
même
en fait.
on s'est habitué à ça parce qu'on nous l'a raconté comme ça en nous vendant le mythe du mec en Deliveroo qui en fait lui est content parce que au fond de son cœur c'est un cycliste et il performe et ça tombe bien en fait parce qu'il t'amène tes sandwichs chez toi ou sur ton lieu de travail et tout le monde est
c'est
content.
Juste, ouais, on
et
a mis le petit vernis marketing sur des métiers
le petit vernis storytelling disruptif.
Voilà, le truc c'est que ces boîtes là qui se lancent et qui lèvent des fonds comme ça, dès qu'ils sont sur le business model qu'ils occupent et qu'il faut vraiment du coup avoir un budget et faire du reporting et tout, ils se rendent compte que c'est pas tenable. C'est juste pas tenable en fait.
Alors la question que je vous pose maintenant qu'on s'est tous mis sur la gueule et pour rentrer dans le débat et même pour en finir, est-ce qu'il y a quand même un avenir à la gig economy? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez la gig economy comme du coup une pratique qui va rester à ce niveau, qui va être une pratique ponctuelle pour les gens?
Attends, je vais développer. Non,
dans quelle mesure? Voilà, je vous demande déjà oui ou non et après surtout dans quelle mesure. Si vous dites oui, est-ce que ça va être quelque chose qui va être majoritaire, qui va être minoritaire, qui va être spécialisé, qui va être pour les petits boulots exécutifs, qui va être ou qui va être, comme dit Fibre, très très avancé, soit sur certains métiers d'élite ou très créatifs ou qui ne peuvent pas être ubérisés. Voilà. Daz qui lève la main. Oui. Alors,
je rejoins l'avis de Fibre Tigre.
Oui.
Dans un futur assez proche, c'est-à-dire 5 ou 10, non, peut-être pas, bon, 10 ou 15 ans plutôt, tout le monde sera auto-entrepreneur, mais pour arrondir les fins de mois, pour du job d'appoint. C'est-à-dire qu'à côté de ça, les gens continueront à avoir des métiers un peu classiques. Et la gig economy sera vraiment pour
75% tradi, 25% gig.
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Tu travailles, tu fais ton lundi au vendredi au taf, et après le soir ou les week-ends, tu arrondis tes fins de mois.
Ça a l'air génial, cette société où on travaille tout le temps. Ouh.
Alors, mais bah, c'est les freelances qui travaillent tout le temps et qui sont contents de travailler tout le temps. Ouais,
non, mais c'est ouf, parce qu'en fait, moi, c'est pas vous. Hein, je dis pas que c'est toute la société.
Toi qui es une ancienne salariée, qui est une jeune entrepreneur.
Mais j'ai l'impression vraiment que tous salariés, entrepreneurs, machin, on est tous épuisés au travail et qu'on est tous là, genre, ouais, on travaille tout le temps, c'est trop bien.
Alors, il y a un culte du travail qui est très mis en avant par la société. Notamment cette
nos parents, vraiment, moi mes parents, je pense qu'ils travaillaient aussi beaucoup, mais ils faisaient vraiment des horaires normaux, ils prenaient leurs vacances. Enfin, tu vois, nous, c'est comme si on disait, genre, ouais, on travaille toujours plus, on est toujours plus
épuisé. Oui, mais attention, il y a encore une fois, il y a travail et travail. Quand je dis, tu fais ton lundi au vendredi au taf sur un boulot qui est peut-être alimentaire, ça veut dire que le reste du temps, ça sera pas forcément effectivement pour du travail de blanchisserie ou de monter des meubles pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi pour gérer tes podcasts ou faire de la prestation à droite à gauche ou écrire.
Mais avant, t'avais des hobbies que tu faisais pas pour gagner
de l'argent. En gros, c'est comme si tu monétisais tes hobbies, tu vois.
Oui, mais pourquoi tu veux monétiser tes hobbies?
Mais ça, juste, parle-nous du coup de toi. Toi, t'es contre du coup ça.
Bah ouais.
D'accord, non mais justement, comme ça, on a un avis un peu synthétique de chacun. Donc, Fibre, il va nous en parler tout à l'heure, il sera sûrement à 100 et 0. Daz est à 75, un vrai job et 25% des extras pour, comme tu dis, ce terrain un peu gris entre j'ai un hobby, une expertise, je vais la monétiser, mais c'est du boulot, mais c'est l'extra. Et toi, tu voudrais revenir à un système où le travail, c'est le travail, et en dehors de ça, il faudrait qu'on ait pas rajouté en plus de la gig.
Bah ouais, sinon tu t'épuises en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression, enfin, je sais pas si vous avez le même sentiment.
Je vois ce que tu veux dire, ouais.
Mais d'un espèce d'épuisement collectif qui est pas très sain en fait. Ou si tu travailles pas comme un taré, tu réussis pas vraiment dans la vie.
Ouais. Et donc là, tu parles en plus non seulement du revenu financier, mais aussi du ressenti, de la validation sociale qui va avec.
Du coup, tes activités aussi doivent te permettre de gagner de l'argent. Enfin, tu vois, tout doit être un succès rémunérateur. Ouais. Et ça, c'est fou.
D'accord.
Que le succès dépende de l'argent.
Mélissa, revenons à quelque chose de plus sain et de plus simple.
Juste après avoir lancé sa boîte, c'est rigolo quand même.
Mais elle fait que ça. J'ai envie de me reposer.
Sylvain.
Moi, j'ai une théorie que j'applique à ma vie et que j'ai planifiée sur les 5 ou 10 prochaines années.
C'est une life routine.
C'est une decade routine. En gros, moi, j'estime que tous les mots comme...
Toi, pourtant, t'es full freelance.
Justement, inverser la courbe du chômage, relancer la croissance, l'économie mondiale plein pot. Tous ces mots-là qu'on entend dans les médias et sur lesquels nos hommes politiques essayent de se battre pour donner de l'emploi à tout le monde, pour moi, c'est des choses qui n'existeront plus jamais. C'est
terminé. Dans quel sens,
ça c'était la révolution industrielle, le plein emploi, on fait une croix dessus. Stop. Ouais. En gros, tu parles d'algorithmes et d'IA, il y a des robots. Moi, j'ai fait des interventions là la semaine dernière chez mon ancien employeur, où les gens qui travaillent dans des régies publicitaires, par exemple, se font remplacer par des algorithmes.
Ok.
Je plus sois.
Donc, pour moi, les robots viennent prendre nos emplois. On n'aura jamais tous du travail. Le chômage va encore plus augmenter. Donc moi, mon projet, c'est d'arriver à me placer dans cette société comme quelqu'un qui travaille, mais dont le travail n'est pas forcément lié à la rémunération.
D'accord.
C'est-à-dire que
c'est le projet de Benoît Hamon.
Quand je bosse, exactement.
Que j'ai soutenu à ma présidentielle Uberdo, souvenez-vous.
C'est-à-dire que quand je fais des vidéos YouTube qui me rapportent pas d'argent, quand je fais des podcasts avec vous qui rapportent pas d'argent, et quand je travaille pour des marques qui me rapportent de l'argent, je considère que ces trois choses, c'est du travail.
D'accord.
Que ça me rapporte de l'argent ou pas. Je décorrèle complètement l'argent, machin. Et en fait, moi, je pense que dans très peu de temps, à moyen terme, on va avoir un système de revenu universel. Ça s'appelle revenu de base, revenu d'appoint, revenu universel ou salaire à vie. Il va y avoir cette chose qui va arriver en place. Pour moi, c'est inévitable.
Donc ça, c'est le vrai éléphant dans la salle, en fait.
Ouais. Et avec ce truc-là, qui est un projet très socialiste, je conçois que le freelancing pour tous soit compatible.
D'accord. Donc voilà. Tu es d'accord pour une libéralisation totale, mais pas dans le setup actuel, qui est une libéralisation monétaire, en fait.
C'est ça.
Voilà.
Ça, tu vois à quel horizon, là, mon petit bonhomme?
5 ou 10 ans.
Ah ouais. Faut vraiment que les vieux disparaissent.
Non, mais c'est bien. Attendez, vous avez chacun un avis très intéressant.
En fait, on travaillera pas plus ou moins, on travaillera pareil, mais il y aura du travail qui rapportera de l'argent et du travail qui ne rapportera pas.
C'est une belle métaphore parce qu'on dit souvent que les taxis râlent contre l'Uber, alors que la vraie révolution, ça va être les voitures autonomes, et c'est ça qui va balayer tout le monde. Et là, en fait, c'est ce que tu me dis un peu, Sylvain, c'est que là, on est en train de râler sur la gig economy, alors qu'en fait, la vraie révolution, c'est la fin du travail.
C'est la fin
parce que la plupart des travaux exécutifs, voire créatifs, seront remplacés par des robots.
C'est la fin du travail rémunéré, quoi. C'est-à-dire que faire son jardin, s'occuper des gosses à la maison, les femmes foyer travail, elles sont pas payées,
ouais.
Et pourtant, dans le sens valeur travail selon Marx,
oui,
c'est du travail. Ouais. Et moi, je considère que le futur, c'est ça.
D'accord, très bien. Et Fibre, pour terminer, pour résumer ta pensée.
Alors, Je suis en adéquation totale avec Sylvain, c'est quasiment mot pour mot ce que j'ai dit lors de l'élection présidentielle, donc je suis vraiment sur cette pensée-là. Maintenant, sur l'ubérisation, la période de transition entre maintenant et ce futur, je pense que l'ubérisation reste une solution dont il faut pas avoir peur, dont il faut pas penser, faut pas l'associer dans sa tête à se dire on va être moins payé, on va plus travailler. Et on va moins travailler, on va peut-être être plus payé, avec peut-être une partie du salaire qui sera, ben vous aurez plus de temps libre, parce que le temps libre c'est aussi de l'argent, voilà. Ouais. Et rien nous empêche d'appliquer des principes de gauche à cette ubérisation, comme par exemple, je donne un exemple, on est 100 sur le métier à être ubérisé, il y en a 4 qui gagnent vraiment pas leur vie, et ben on va se mutualiser, et eux ils disposeront, on aura une assurance pour ceux qui gagneront moins. Ça s'appelle une syndication, du syndicalisme. On peut avoir des syndicats d'ubérisés. On peut faire des choses qui peuvent aider tout le monde. Et l'ubérisation, dans ce cas-là, c'est une source de bonheur. Simplement, il faut arrêter d'avoir ce réflexe débile de dire « Ubérisation, c'est la fin du travail, la fin de la production. »
Là, on revient à ton argument qui était « Uber a une très mauvaise image de marque. » Peut-être que le terme en lui-même est devenu péjoratif.
Mais oui, mais c'est parce que...
Mais c'est pas qu'ils ont une mauvaise image de marque. C'est que les mecs qui travaillent pour Uber te disent « Texto, je fais 15 heures par jour. »
Voilà, et puis il y a eu... En France, avec le barrage du CDI et le barrage, enfin, vous avez vu ce que les syndicats ont fait à la SNCF ces deux derniers mois. Moi, j'ai carrément souffert parce que j'habite plus à Paris, justement. Je peux dire, on a une culture du travail qui est très particulière, très implantée en France. C'est des obstacles psychologiques qui sont énormes et c'est compliqué. C'est dommage qu'on soit en France, mais bon, c'est comme ça.
Voilà. Je suis content. Vous avez la pensée synthétique de Fibre et juste avant celle de Sylvain, juste avant celle de Mélissa, juste avant celle de Daz. Et on espère avoir la vôtre dans le forum, mais en tout cas, je pense qu'il y aura de la discussion. En tout cas, c'est là-dessus que se termine ce Studio 404.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Ah là là, quelle belle émission du mois de juin. Je n'ose même pas savoir quelle heure il est, puisqu'encore une fois, c'est un enregistrement qui se finit tard. Mais nous ne sommes pas le 30 juin, donc tout va bien, nous sommes en avance. Nous avons beaucoup voyagé ensemble, nous avons commencé dans un restaurant italien pour finir dans un bar québécois, vraie histoire. Pendant ce temps-là, Daz a fait voyager Fibre Tigre en le transformant en américain, en espagnol, en allemand. Mélissa est partie dans les fins fonds de l'autre web, celui de l'afro-trap, des AirPods et des dédicaces à Nantes. C'était assez incroyable. Pendant que Sylvain, lui, s'est baladé dans les villes fantômes du web. Il nous a fait redécouvrir un peu, comme dit Fibre, il a fait une sorte d'urbex, un peu des plateformes 2.0. Et Fibre, quant à lui, évidemment, nous a fait voyager dans le futur trop tôt, le futur des early adopters, le futur qui va à la vitesse d'un overboard, le tout connecté avec une oreillette Bluetooth. On espère que vous avez bien sûr apprécié cette émission que nous avons, je vous le rappelle, enregistrée en balade grâce à notre petit matériel de Gitan du futur, de Gitan 2.0, piloté par notre ami Ghislain, notre cher réalisateur Ghislain de Studio 404, bien sûr, on vous rappelle.
C'est donc ça la baladodiffusion dont on parle
tant. C'est la vraie baladodiffusion qu'on vous a fait. Vous avez entendu derrière des gens ivres en québécois et des bouteilles qui passaient. Et évidemment, ça c'est grâce à vous, cher Patreon. Vous êtes toujours plus nombreux chaque jour. Fibre est heureux lorsqu'il vous voit arriver sur le Patreon. On va en profiter pour remercier. Mais tu vas le faire, Fibre, attends, regarde.
Non.
Ah non.
Non, ta voix évoque des choses.
Provoque des choses sur les gens.
Je pense que c'est mieux que c'est toi qui.
Ça évoque quoi? Ça évoque l'argent? Ça évoque l'envie de donner de l'argent?
Le sexe, en fait.
Le sexe.
Voilà. Et alors, sexe égale argent.
Alors,
j'enfile
mon legging le plus moulant et nous allons remercier nos derniers Patreons, nos plus récents des Patreons, Chemical Gamer, Julien, Jérôme, Peseb F, Jérôme S, Michou à poil. C'est très sexe.
Tu vois, on t'avait dit.
Ils l'ont fait exprès.
Très mignon, Michou à poil. David de Reims, Rosalie, Baxou 47, Gaël, Thomas, Adrien, Bruno, Nicolas, Laurent, Kratu, Guillaume et Iwankiu. Si ça se prononce bien, Iwankiu. KIW.
Merci les Patreons.
Merci beaucoup à vous de rejoindre le Patreon. Merci de nous aider à produire des belles émissions. En tout cas, c'était la dernière émission de la saison, puisque nous allons avoir des vacances de gens en CDI, puisqu'on a 2 mois de vacances. Non, on reviendra vite. On vous prépare peut-être un petit hors-série pour cet été, peut-être d'autres surprises. En tout cas, merci beaucoup. Faites passer le mot. C'est ça. Mettez 5 étoiles, 6 étoiles, si vous plaît, dans iTunes. 5, c'est pas assez. Faut mettre 6 étoiles dans iTunes.
Ou alors, on peut être 1 à tous les autres podcasts. Ubérisation.
Bienveillance.
Et poster un film en commentaire.
Ah non.
Mais
pas
quel
le bon
enfoiré
podcast.
Ce Fibre. Quel enfoiré. Allez, on vous embrasse tous très fort et encore merci d'être fidèles à Studio 404.
Bye bye.
Merci.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.